forever. NBA Now and Forever.
Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode. Je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouvez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité sans langue de bois et avec surtout beaucoup de mauvaise foi. Au passage, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, Compte Forever Podcast, ainsi qu'Instagram, Compte Forever, le podcast où vous retrouverez du contenu quotidiennement. Pour m'accompagner cette semaine, on a un beau petit cast, un beau petit 5 de départ, où nous avons donc notre premier protagoniste, qui est prêt, pour faire un retour tonitruant, tel Fouiné Baby aux flammes, toujours affûté et en forme comme ses Celtics. C'est bien évidemment Polo qui est avec nous. Comment tu vas, Polo?
Ça va, comme un gars du Massachusetts. Ça va, lui.
Voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes pour le moment.
Voilà, exactement.
Et super. Notre second compère, qui est à la fois ravi car il va pouvoir doublement voir ses Spurs à Paris, mais il est également en PLS car il va devoir claquer son assurance vie pour pouvoir se le payer. Je vous présente Quentin. Comment tu vas, Quentin?
Bonjour.
Voilà, très bien.
Hormis le prix des places, tout va bien?
Ouais, ça va. Je sens depuis cette nouvelle que t'es plutôt heureux.
Oui.
Super. Et pour conclure ce 5 de départ, car bien évidemment, vous retrouverez Loris pour l'introduction du débat de la semaine, notre invité de la semaine, membre et journaliste pour Vroom, si je prononce bien, que vous pouvez retrouver avec ses collègues sur le crossover, le French Flair pour les amateurs de ballon ovale, les tricolores pour les fans du sport français tout court, la lucarne pour le football et la Boxing Academy, pas besoin de préciser pour quel sport. Vous le connaissez déjà, car on avait déjà eu l'occasion de l'accueillir sur Team Duncast pour parler l'un de ses meilleurs ennemis lors de notre troisième saison. Et puis, impossible de passer aussi à côté de son compte Twitter. Je vous présente le président d'honneur des Genosexuals, Vincent Poulain. Comment tu vas, Vincent?
Salut Vlad, ça me fait plaisir. Ouais, je suis trop content d'être avec vous, les gars. Ça faisait longtemps, depuis ce fameux épisode sur Shaq. Mais je suis trop content d'être avec vous. Et puis j'ai adoré la blague là sur Funny Babe qui m'a rappelé mes 15 ans aux flammes. Franchement, c'était chouette.
Écoute, nickel. Et puis c'est toujours un plaisir, bien sûr, de te recevoir comme d'habitude. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on aborde de suite les actualités, car on en a quelques-unes avant d'aller sur un gros débat de la semaine. Première actualité, on va revenir un petit peu sur les titres individuels. On a notamment une mise à jour très récente des titres individuels. Donc, pour vous faire un peu la liste, donc des titres qui ont déjà été décernés. Donc, on a le Most Improved Player, qui est Tyrese Maxey pour les Sixers, Cocorico. Nous avons le Coach of the Year, qui a été donc déclaré tout récemment. Je crois que c'est avant-hier, si je dis pas de bêtises. Donc, qui est Mark Degno, le coach d'Oklahoma City. Nous avons le Sixth Man of the Year, qui est Nazri du côté des Timberwolves. Le Clutch Player of the Year, a.k.a. le titre dont on n'a absolument rien à foutre, qui est pour Stephen Curry des Golden State Warriors. Et tout récemment, il y a même pas quelques heures à heure et date d'enregistrement, donc nous avons l'Executive of the Year qui a été décerné pour Brad Stevens pour la magnifique saison des Celtics. Voilà, on a pour le moment l'exhaustivité de tous les titres. Quelles sont un peu vos réactions sur les titres? Est-ce qu'il y a des scandales? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt logiques? Quels sont vos avis, messieurs?
Pour moi, c'est logique sur la plupart. Je sais qu'il y a un petit scandale autour de Nazrid. Pour moi, ne démérite pas, en tout cas, même si je comprends que certaines personnes du côté de Sacramento auraient préféré qu'il atterrisse dans une autre personne. Mais pour moi, il n'y a pas de scandale. Par exemple, Brad Stevens, qui rejoint le club très fermé des exécutives et coachs qui ont gagné les deux récompenses, aux côtés de Pat Riley et bien sûr de Larry Bird, qui lui a carrément fait le triplé avec le MVP. J'ai envie de te dire, là, pour parler de celui-ci à chaud, c'est le genre de truc en début de saison où tu te doutais que si les Celtics faisaient une grande saison, ça allait lui revenir.
Ouais.
Les Celtics ont fait une grande saison, donc c'était logique finalement que son travail soit récompensé. Donc voilà, Brad Stevens qui s'inscrit encore un peu plus dans la légende des Celtics.
Toi, Paulo, je suppose que tu es pleinement satisfait.
Oui, pleinement satisfait. Après, on sait qu'il y a toujours de grandes attentes du côté du Massachusetts parce que c'est une région où on aime beaucoup le sport et on est toujours derrière les équipes. Mais je pense que c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Depuis quelques années, on essaie de faire du bon boulot et ça commence à porter ses fruits. Donc, on espère que ça va continuer comme ça et que l'esprit sera dans la même continuation, quoi. Ça serait cool. Mm-hmm.
Toi, Quentin, t'attends juste le Rookie of the Year, je suppose.
J'attends plus le MVP, parce que le Rookie of the Year, la course est terminée depuis janvier, en fait.
Allez, ça y est.
Je pense même qu'elle n'a jamais vraiment démarré. Hein.
Ouais, allez, il y avait un semblant de résistance de la part de Chet.
Ah, très bien, Chet a pu discuter 3 jours. Félicitations, allez.
Voilà. Donc ça c'est déjà plié. Le Deep Boy s'est plié aussi, voilà. Moi, j'attends juste le MVP, parce que bon... Mm-hmm. Toi, Vladimir, tu connais mon avis sur le MIP.
Ah, ça y est.
En vrai, le Deep Boy, je suis curieux de voir le classement, même si je pense que Gobert va l'avoir. Mais il y a beaucoup de... D'après les insights qui sont sortis un petit peu, il y a de fortes chances que Wemby finisse deuxième du Deep Boy. Et je suis vraiment curieux parce que pour le coup, ça va faire pas mal jaser. Ouais. Si, déjà, qu'il soit dans les trois, ça a beaucoup fait parler, même si... Son impact est défensif et indéniable, et que c'est déjà un des meilleurs défenseurs de la ligue. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours bizarre d'avoir un mec top 3 défenseur player of the year qui joue dans potentiellement la pire défense de la NBA. Grave. Mais potentiellement, hein. Mais bon, disons qu'à côté, on voit quand Wemby est pas sur le terrain, quoi. Mais donc, je suis assez curieux de voir le classement. Et puis, sinon, on n'a pas un petit mot pour Mark Daigneault, peut-être aussi, oui. Qui pour le coup est un peu la surprise de l'année, hein. Avec ses OKC qu'on n'imaginait pas
aussi haut,
qu'on n'imaginait pas aussi fort. En plus, ils sont allés chercher la première place lors de la dernière journée. Là, ils viennent de sweeper les Pels. Non, franchement, pour le coup, là, c'est vraiment travail mérité. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur la suite de sa carrière, parce qu'on en connaît beaucoup, hein, des Koi qui ont le Koi très haut, vraiment au tout début de leur carrière, et qui derrière réussissent pas à confirmer. Je pense pas que ça sera le cas de Daigneault. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir réserve au Thunder.
Bah, surtout que Daigneault, en plus, c'est vraiment dans une continuité, hein, parce qu'il était déjà dans le top 3, je crois, des coachs pour la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Il était déjà finaliste, donc en soi, c'est vraiment la saison de la confirmation. Après, c'est vrai qu'en termes de résultats, oui, on ne les attendait clairement pas à ce niveau-là, Oklahoma, donc... Pour le coup, c'est amplement mérité pour lui. En effet, on ne reviendra pas sur le Six Man of the Year. Hein, on va éviter de raviver certaines tensions et qui peuvent paraître notamment du côté de la Californie.
Mais pour le coach de l'année, du coup, on n'a pas précisé que Mark Daigneault, il rejoint l'immense Scott Brooks comme coach de l'année au KC.
C'est vrai. Bah oui, bon, après Scott Brooks au début c'était pas si dégueulasse, hein.
Ah bah heureusement que c'était le début, hein, parce que
c'est bon, c'est plus à Portland que ça a pêché un petit peu.
Non, c'est vrai que c'était compliqué après au bout d'un moment, mais bon, après Scott Brooks, oui, il était quand même très bien servi, et puis il avait excellemment utilisé aussi son effectif à cette époque-là avec de très bons résultats. Donc voilà pour les distinctions individuelles à date d'enregistrement. Deuxième actualité, bon, on a déjà commencé un petit peu à aborder le sujet, mais les NBA Paris Games 2025, et je dis bien Games au pluriel, car nous avons donc deux affiches, enfin deux fois la même affiche, qui seront proposées les 23 et 25 janvier 2025, hein, qui vont donc opposer les Spurs, hein, donc Victor Wembanyama qui revient à la maison, contre les Indiana Pacers, hein, n'en déplaise pour même, je pense, le plus gros plaisir de Notre-Dame nationale. Est-ce que là, ces deux dates, est-ce que c'est vraiment la confirmation qu'il y a une vraie attraction du basket, une vraie volonté de peut-être se développer un peu plus justement en France?
Bah déjà, c'était un secret de polichinelle. Hein. On se souvient de Tony qui avait un peu vendu la mèche, qui avait carrément vendu la mèche lors du dernier Paris Game. En plus, Benjamin Moubèche, oui. Qui est journaliste, qui était à San Antonio, avait déjà confirmé plus ou moins l'info il y a plusieurs mois. Donc vraiment, voilà, c'était un secret de polichinelle. Maintenant, c'est fait. Et évidemment, ça confirme que la France prend une place de plus en plus importante en NBA. De toute façon, on a un des contingents les plus importants en NBA. On a des joueurs qui sont draftés de plus en plus haut. On a un numéro 1 de draft. On va potentiellement en avoir un deuxième cette année avec un nombre record de draftés. Voilà, c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. Et en plus, moi, l'affiche, je la trouve chouette et intéressante commercialement parlant. Ouais. Déjà parce que t'as Wemby, donc ça, c'était de toute façon, c'était obligé d'avoir Wemby, tu vois. Et en plus, en face, t'as Pascal Siakam qui, pour le coup, il parle français, c'est sa langue natale, qui a, je pense, une cote de sympathie assez élevée en France. Qui va pouvoir répondre aux médias, qui va pouvoir faire tous les trucs autour du... Parce que c'est aussi ça, hein, c'est tous les événements qu'il va y avoir autour. Donc je trouve que commercialement parlant, ça a du sens d'avoir ce match-là.
T'as une énorme communauté camerounaise. Hein, donc
bien sûr, bien sûr.
Énormément. Hein.
Puis même africaine tout court. Hein, tu vois, genre c'est la fierté de l'Afrique de l'Ouest un peu. Non, c'est, je trouve ça chouette.
Non, carrément. Puis ça va même un petit peu dans le sens un peu, bon, je vais peut-être un petit peu divaguer, mais ça va aussi dans le sens un peu du développement du basket africain avec la BAL et les compagnies, voilà. Donc c'est vrai que ça va vraiment dans ce sens-là, sachant qu'il y a aussi Bénédicte Mathurin qui parle excellemment français, hein, qui est complètement bilingue aussi. Donc c'est agréable et puis pour une fois parce qu'à ma connaissance les Pacers ne sont jamais venus en France, ça me
je crois pas. Non, je crois pas.
Donc ce serait
non, pas dans les rues, c'est vrai que pas dans les matchs qu'il y a eu jamais.
Ouais, il y a pas eu
les Spurs, ça fait un bail hein qu'ils sont pas venus en France hein.
2010 non 2006 peut-être.
Ouais.
Où ils étaient
allés un match de pré-saison là.
À l'ASVEL, je crois.
Ah, ça date.
Je crois que c'était un match contre l'ASVEL.
Tim Duncan ne jouait pas.
Ouais. Et Tony Parker s'était pris une grosse gorgette aussi au passage sur ce match-là, sur une contre-attaque où il avait tenté de faire un peu le malin, mais on ne dira pas de mal sur le franchise player des Spurs. Pardon.
On sent qu'on a sous la pédale.
Je ne dirais pas plus.
Non, mais c'est en vrai de vrai, c'est quand même trop chouette. Hein. Moi, c'est une affiche qui me hype beaucoup plus que l'horrible match qu'on a eu. Ah, quoique, il n'était pas si horrible que ça.
Chicago-Détroit.
C'est à celui-ci que je pensais, là, parce que j'étais dans la salle. Waouh ! Et Amidou Diallo, le joueur qui te fait kiffer sur le terrain, ouais. C'est Amidou Diallo, faut te poser des questions sur ce que tu regardes, tu vois. Ah. Je me dis quand même, à moins d'une hécatombe, Wemby soit pas là, et là pour le coup, waouh, quel enfer! Mais normalement, ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller. On devrait avoir pas du grand basket, mais à défaut du basket un peu marrant. Parce que tu vois, genre les Pacers, voilà, ça défend pas un cachou, mais ça attaque très très bien. Puis les Spurs, quand Wemby sur le terrain, c'est toujours et même sur la fin de saison,
ça attaque en transition parce que sur demi-terrain,
oui, bon après, voilà,
ça va. Après, c'est une affiche. Alors après, je te laisserai peut-être conclure sur le sujet, Quentin. Mais ça va justement peut-être dans le sens où on a eu que des affiches. Voilà, les attaques, c'était pas la folie. Et là, on va avoir déjà du côté San Antonio. Bon, voilà, on a Wemby qui est une anomalie humaine. On va voir ce que ça va donner aussi cet été. Hein. Ça se trouve, on va avoir un effectif qui va être un peu plus sexy aussi. Mais surtout, qu'on va avoir les Spurs, ça va être du basket champagne. Là. Pour une fois, on va avoir des équipes qui vont être capables de scorer. C'est peut-être ça, justement, qui va rendre l'affiche plus intéressante.
Puis il va y avoir de l'enjeu aussi.
Ouais.
Parce que c'est chose qui manquait cruellement au dernier match. Je pense même que la dernière fois qu'il y a eu de l'enjeu à peu près dans ce match, c'est quand les Hornets sont venus jouer sur le premier parce que c'était Nicolas Batum, quoi. Voilà, donc non, je pense que ça pour le coup, va y avoir de l'enjeu. Wemby va vouloir le gagner, c'est sûr que c'est le premier truc qui va entourer. Les Pacers vont vouloir battre Wemby. Non, ça va être trop cool, hein. Ça va être trop cool. J'espère juste que, bah voilà, comme d'hab, le prix des places.
Ouais, bon, bah. Bon, on sait que Quentin, il est déjà en PLS. Là, il est sur le point de se vendre des attributs qui lui sont propres.
Mais c'est déjà fait. j'ai vendu un rein hier. Du coup, je peux peut-être acheter une place, mais une catégorie 9.
Tout en haut. Où tu vois rien.
Toi, tu vas plonger. Toi, tu vas tenter d'y aller, toi, Quentin.
Ah, franchement, si j'ai de la chance avec les files d'attente. C'est... De toute façon, ça fait déjà un moment que je prévois, depuis que Tony Parker a lâché la bombe, ça fait un moment que je prévois avec la famille, où je leur dis « Ouais, les gars, il y a mon équipe qui vient. » Donc en fait, tu sais, je suis en train peu à peu de dire à tout le monde
« Pour le cadeau de Noël. »
Alors, à telle date, tout le monde se connecte, et je veux ma place.
Bon bah écoutez, hein, si vous souhaitez avoir une place pour Quentin, hein, donc sur la prochaine vente à venir, donc je pense que ce sera vers... octobre-novembre, hein, n'hésitez pas à lui faire part si vous voulez lui rendre service et vous connecter pour lui, car les places coûteront, je pense, encore un bon bras. Mais la NBA est américaine, nous sommes dans le pays du capitalisme et du libéralisme à fond, donc c'est normal.
Et surtout,
ouais,
tu parles de la France de Macron, là.
Ah,
la France en
marche. J'ai rien dit.
Ça m'aiderait à réaliser mon rêve, parce que j'ai toujours rêvé de voir en vrai Julien Champagny et Devonté Graham. C'est mon rêve, c'est
insupportable. Insupportable.
Ah, putain.
Devant Tegram qui aura été très clutch, hein, d'ailleurs, sur le dernier match de saison régulière.
Évidemment.
Beaucoup les Nuggets.
Voilà pour cette actualité. Troisième actualité, alors, qui est un peu passée peut-être un petit peu sous les radars, mais je tenais quand même à le mettre en avant parce que je trouve que c'est une excellente chose. Il y a eu la draft NFL. Qui a eu lieu là ces derniers jours à Détroit, et au vu du succès de l'organisation, il serait potentiellement question pour les années à venir. Alors de toute façon, on connaît déjà les dates des All-Star Weekend, des prochaines échéances jusqu'à 2027, donc jusqu'à Phoenix. Mais au vu du succès qu'il y a eu avec la draft NFL, hein, qui s'est tenue sur 3 jours et qui a accueilli de plusieurs centaines de milliers de spectateurs, pourquoi pas un futur All-Star Game. Alors, ça fait plus de 65 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas eu de All-Star Game à Détroit. Donc, il est peut-être question que ça puisse revenir, alors peut-être à partir de 2028, ou en tout cas sur les All-Star Games à venir. Pour le moment, il y a juste la dernière contrainte qui reste encore à voir, c'est plus sur la partie hébergement pour les joueurs. Mais il y a justement un énorme complexe hôtelier qui devrait s'ouvrir sur Détroit pour 2028. Donc, il se peut que les planètes s'alignent sur cette période-là. Donc voilà, c'était la petite info. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir dessus, messieurs, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour
la ville. Redynamiser un peu la ville, parce que c'est vrai que, pour le coup, avec la NFL, la saison dernière, ils ont vraiment eu une saison très intéressante avec les Lions. Donc c'est vrai que je pense que l'histoire de capitaliser un peu tout ça et de redonner un peu de la pêche, parce que c'est vrai que là, avec la saison qu'ils ont eue, c'était un peu... la soupe à la grimace, donc essayer de capitaliser sur le fait que les Lions ont bien joué l'année dernière, histoire de, comme tu viens de le dire, que ça s'est bien passé au niveau de la draft. Je pense que c'est pour redonner un petit coup de boost à la région et faire en sorte de marquer un peu le coup, quoi.
Mais tu sais que dans ma vie, j'ai vu la moitié des victoires des Lions en playoff. Ils en ont gagné 2 cette saison, et c'est la moitié des victoires qu'ils ont d'affilée. Super.
Non, mais c'est incroyable. Mais c'est une ville qui a beaucoup d'équipes sportives, mais c'est un vrai marasme. Donc c'est vrai que c'est dommage pour le coup,
mais par contre,
redonner un peu de la vigueur.
Ouais, par contre, hein, Dieu sait, et d'ailleurs, hein, j'en profite, hein, je fais une pub aussi à Winston, hein, des Chroniques de Motor City, hein, qui, voilà, Détroit est une ville avec une histoire dans le sport américain qui est juste fabuleuse, qui est énorme. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas, alors surtout là pour le basket, hein, vu qu'on est un podcast basket, n'hésitez pas à checker les Chroniques de Motor City, hein, de Winston, vous allez vous régaler. Sur l'histoire du basket à Détroit.
Et même stratégiquement, pour terminer, stratégiquement, je trouve aussi que ça serait logique, hein, finalement, que la NBA donne un All-Star Weekend à Détroit. La NBA, elle a toujours aimé ça, hein, donner des All-Star Weekend un peu à des marchés en difficulté. Oui. On se souvient notamment la Nouvelle-Orléans, qui en plus de se faire distribuer des first picks, se faisait distribuer aussi régulièrement des. Bon, après, la Nouvelle-Orléans, c'est différent parce qu'il y a eu du vrai forcing. Mais c'est aussi ça que la NBA aime bien faire, hein, prendre un marché un peu en difficulté où il commence un petit peu à avoir un peu de hype et puis réussir à revenir derrière et mettre un All-Star Game. Donc moi, ça me paraîtrait stratégiquement complètement normal de donner un All-Star Weekend à Détroit, quoi.
Ouais, bah moi en effet, pour la référence historique, hein, c'est aussi l'attribution de All-Star Game 2008 à la Nouvelle-Orléans, hein, suite à l'ouragan Katrina et compagnie. Donc c'est en effet, il y a eu Cleveland aussi dernièrement. Bon voilà, c'est vrai que c'est l'occasion, oui, pour les petites, on va dire les petits marchés, hein, qui sont d'ailleurs très chers aussi à Damas, de pouvoir, bah, avec Indiana notamment, de pouvoir justement, oui, s'illustrer vraiment sur le devant de la scène. Et c'est vrai que ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, on souhaite que Détroit puisse en effet accueillir une grande fête que peut être le All-Star Weekend, même si, bon, on est capable de leur reprocher pas mal de choses en ce moment sur le contenu du All-Star Weekend, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Est-ce qu'on le regardera parce qu'il est à Détroit? Non.
Mais on le regardera pas quand même. Non, mais si la formule évolue. Non, mais Vlad, si la formule évolue, je pense qu'il y a, comme dans tous les business, je pense qu'il y a eu des retours. Maintenant, je pense qu'ils sont malins. S'ils se rendent compte que les audiences baissent, ils vont revoir la copie. Après,
oui, non, mais en fait, le truc, c'est pas tant ça. C'est juste que c'est un produit qui est pensé pour des logiques du siècle dernier. Maintenant, en fait, c'est juste l'existence. Non, mais c'est vrai. À quoi ça. Enfin, j'ai déjà raconté plein de fois ce truc, mais pourquoi le All-Star Weekend a été créé? Il a été créé pour mettre en avant le produit de la NBA qui, à l'époque, n'était pas encore diffusé à l'antenne nationale ou alors quelques matchs. Et il était créé pour ça, pour donner envie aux gens de regarder les matchs NBA et surtout d'aller dans les salles parce que c'était la billetterie qui était le principal qui rentrait l'argent, quoi. Et le truc, c'est que maintenant, en fait, il y a plus aucune raison de ça, et il y a plus aucune raison, en fait, qu'il y ait un All-Star Weekend, parce que, en fait, on est pas sur les mêmes logiques. Les gens qui regardent le All-Star Weekend, bah, ils regardent déjà les matchs NBA, et ils ont pas besoin de regarder le All-Star Weekend, ou là où il y a toutes les stars, parce que, en un clic, chaque soir, ils peuvent regarder leur star préférée tous les soirs. Donc, il y a juste.
Avec les League Pass et tout ça, oui, c'est vrai que pour le coup. Ça change la donne, oui.
Et puis tu regardes, là on parlait de NFL, tu compares au Pro Bowl, le Pro Bowl, ouais. C'est encore pire, hein. C'est un enfer, hein. La plupart des gars qui sont sélectionnés au Pro Bowl n'y vont même pas. Et tu te retrouves avec. Non, c'est pas des blagues, hein. Parce que souvent, ils jouent le Super Bowl deux semaines plus tard, ou soit juste ils ont la flemme, tu vois. Et tu te retrouves avec des gars, si je te fais une analogie NBA, des Larry Nance Jr. Au Pro Bowl, quoi. Avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour la Hinance, mais du coup, moi je pense juste que c'est un produit dépassé. Bon, ça c'est pas trop le débat, mais
après, ça on y est déjà. On a eu Scottie Barnes cette année.
Ah, vas-y, ça y commence. toi tu veux t'attirer les foudres, Quentin.
Déjà, j'ai vu là tout à l'heure sur Twitter qu'ils étaient un peu vénères, les fans des Raptors, avec la dernière sortie de Bilal Koulibaly. Alors, je me dis, on va rajouter un petit peu d'huile sur le feu.
Par rapport à Pascal Siakam.
Oui.
Ouais, bon, ouais, il le trouve un peu surcoté. Bon, c'est un peu dur, je trouve, quand même, parce que c'est quand même un super joueur, Pascal Siakam. Mais,
ouais, puis les playoffs qui sortent, là,
Ouais, en plus, il est sérieux, c'est vrai, en ce moment. Mais bon, on va pas revenir sur le sujet de Bilal, hein, d'ailleurs, la bise, hein, Bilal, au passage. Bon, en tout cas, je suis pleinement en faveur de Détroit en tant que future ville hôte, du All-Star Weekend. Ensuite, alors, on va en profiter, ça va nous faire un peu aussi la transition pour le débat de la semaine. Les playoffs 2024, le premier tour. Alors, premier tour qui s'est déjà achevé pour plusieurs équipes. Hein. Donc, malheureusement, la remontada, hein, Lakers, hein, n'aura pas lieu, hein, face aux Nuggets, hein, c'était quand même plutôt prévisible. Donc les Nuggets qui s'imposent donc sur le score de 4-1. Nous avons ensuite les Timberwolves qui se sont imposés face aux Suns 4-0. On va pas revenir, hein, sur la série d'Anthony Edwards. On a les Clippers qui sont à égalité de partout avec les Mavericks. Et nous avons le Thunder qui a mis aussi un petit coup de balai aux Pelicans sur le score fleuve de 4-0. Donc on a déjà trois qualifiés pour les demi-finales de conférence à l'Ouest. Par contre, du côté de l'Est, hein, à heure d'enregistrement, enfin date d'enregistrement, nous avons donc les Celtics qui mènent 3-1 face aux Heat. Nous avons le Magic qui est à égalité avec les Cavs de partout. Nous avons les Bucks qui se font mener 3-1 par les Pacers. Et nous avons les Knicks qui mènent 3-1 face aux Sixers. Bon, au vu de ces résultats, est-ce que vous avez des choses à mettre en avant, messieurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez mettre en avant?
Joël Embiid, je sais
je
sais que tu vas pas aimer, Vlad, je sais que tu vas pas aimer, mais je suis désolé. On en discute souvent là sur le groupe. Pour un leader, j'ai l'impression que il est pas autant vigoureux dans sa parole que dans les actes sur le terrain.
Et c'est un ça leader. Qui est... Je comprends pas le bon mot, je comprends pas le mot. En fait.
Mais en tout cas, c'est la posture qu'il prend. Malheureusement, et franchement, j'en parlais avec Vlad depuis quelques jours. Tu peux pas être leader et être transparent quand ça compte. Ça ne va pas ensemble. Et là, ces derniers temps, je trouve qu'il chouine trop pour ce qu'il fait sur le terrain. Ça ne va pas.
Bah, alors, pour le coup, j'entends. Moi, je suis. Il y a un truc. Il a répondu sur le terrain. Là, on sait qu'il est au bout du Rolls. Hein. Il suffisait de voir le match de play-in où le mec était assis sur le banc à la fin du premier quart. T'avais l'impression que le frérot, il avait 60 piges. Ou que c'est moi qui. T'as l'impression que c'est moi qui viens de faire un footing, tu vois. Donc vraiment, il était au bout de sa life. Franchement, là, pour le coup, tu vois, j'entends le fait qu'il est très très diminué. Mais moi, c'est le problème, c'est dans le truc de leader,
c'est l'attitude, c'est
la manière de communiquer. Là, tout à l'heure, j'étais en live avec le crossover, on a fait un petit montage un peu des excuses chaque année, et chaque année, il y a une excuse différente. Un coup, c'est parce qu'il a pas PJ Tucker avec lui, un coup, c'est parce que c'était un lucky shot. Un coup, c'est parce qu'il n'était pas à 100%. Un coup, c'est parce que James Harden et lui ne peuvent pas tout faire. Un coup, c'est parce qu'il n'est pas la babysitter de Ben Simmons. Un coup, c'est ça. Un coup, c'est les arbitres. Un coup, c'est les fans des Knicks qui font trop de bruit dans la salle des Sixers. Non, mais c'est insupportable, quoi. Enfin, franchement, quel enfer. T'es un leader. Au bout d'un moment, t'es là pour donner l'exemple. Quel exemple tu donnes aux gars? Est-ce que tu penses vraiment que les gars à côté de toi, ils ont envie d'aller à la guerre, ils ont envie de mourir, ils ont envie de eux seuls loyalty et respect à la John Cena? Bah non, ils ont pas envie. Enfin, franchement, moi je suis pas un gars comme ça à la guerre, tu vois.
Bah c'est vrai que par rapport à ça, alors bon, moi, j'ai eu le plaisir de commenter le match en direct avec Quentin justement dimanche soir. Bah en plus, ce qui est encore plus dommage sur cette série. Qui sortent face aux Knicks, franchement, il n'y aura aucun scandale. Au vu de la saison des Knicks, voilà, ça arrive à des gens respectables. J'ai absolument aucun problème avec ça, sachant que je suis le nouveau bandeur des Knicks aussi au passage.
Comme nous tous.
Voilà, on est tous montés dans le train, je confirme. Mais en fait, ce qui m'embête par rapport en effet au Embiid, surtout, c'est que là, tu as la tribune parfaite pour faire... Enfin, pour te montrer en tant que réel patron. Tu as enfin un coach, on en parlait d'ailleurs aussi sur le groupe, sur notre groupe WhatsApp. Tu as enfin un vrai coach. Tu as un coach qui est capable de te mettre une vraie hiérarchie, qui est capable de te mettre une vraie philosophie de jeu. Philadelphie, c'est devenu vraiment une équipe pure défensive. Enfin, avec eux, avec les Knicks, tu as vraiment l'impression de retourner un peu dans les années 90 où c'est très dur au mal, où ça défend très dur, où voilà,
c'est nasty, de ouf.
Mais ça essaie de blesser les adversaires.
Ah vas-y toi.
ce sont les faits. Ce sont
ma croque en jambe, croque en jambe.
Mais voilà, c'est le truc qu'on reprochait justement à la NBA depuis quelques années. C'est voilà, il manque de nasty, il manque justement de vraies confrontations comme on a pu avoir à l'Est il y a quelques années. Et là, on a la tribune parfaite pour ça. Il y a une vraie hiérarchie avec Nick Nurse maintenant qui a été mise en place. C'est clairement Joel Embiid le numéro 1. Il n'a absolument plus personne pour lui mettre des bâtons dans les roues. Là, enfin, mec, sur ce match-là, sur le dernier match, en effet, moi je vous rejoins, hein, il s'est effacé sur le dernier carton, alors que c'était là. c'était là où il pouvait, sans forcément faire un match à 40-50 points, mais c'est là où il pouvait dire, c'est moi le patron, tu es chez moi, je vais t'écraser comme il l'a fait dans le troisième carton. Tant il a fait passer Hartenstein de 0 à 5 fautes. Mais il fallait continuer à pilonner comme ça dans le dernier quart. En plus, il avait l'avantage physique sur tout le monde. Mais non, il ne l'a pas fait. Donc là, moi, maintenant, la seule chose que j'attends, c'est un vrai statement game au Madison Square Garden, même si je sais que ça ne va pas être le cas.
Moi, je sens que la série est piège. Je sens que ça va à accident. Et je j'aime pas les paris, hein, mais si je devais mettre une petite pièce sur un truc, j'irais sur une série en 7, victoire d'Anix à la fin.
Ok. Bizarrement, moi, je suis pas si confiant que ça.
Non, pour le coup, je sens que la série est pas terminée. Là. Bah, peut-être que d'ici qu'on poste le podcast, elle sera terminée.
Non, ça va. Là, c'est demain, donc le match 5 ne sera pas joué encore.
Tranquille, alors.
Je pense que ce sera une question d'honneur aussi. Je pense que si c'est des personnes qui se respectent, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur Twitter, beaucoup de fans des Sixers qui sont venus s'en un peu frotter. Je pense que les Tobias Harris, tout le monde va essayer de se remettre en ordre de marche pour prouver aux supporters que c'est pas des rigolos. Maintenant, le problème, c'est entre se dire qu'on n'est pas des rigolos et aller sur le terrain et dire qu'on n'est pas des rigolos, il y a un monde. Donc, je pense que c'est ça qui va être le plus dur, je pense, pour les Sixers face aux Knicks. Parce que les Knicks sont aussi teigneux. Hein. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu des possessions en playoff où ça va en 24 secondes et les mecs n'arrivent pas à trouver une solution pour marquer. Donc, ça fait plaisir, comme tu disais. Mais répéter ça à tous les matchs,
Josh Hart,
ça bouffe de l'énergie.
Josh Hart, il met la tête à des endroits où j'oserais même pas mettre un bout de doigt.
Oula, attention à ce que tu dis.
Prends l'air.
Parce que là, bizarrement, j'ai la tête d'Ace Ventura avec un éléphant.
Peggy 18. Oh
non.
Mais c'est Josh Hart,
OG Anunoby, eux seuls de malade, c'est un truc de fou. Hein. Et Josh Hart, pour le coup, il fait un match offensif écœurant, hein, vraiment, il est dégueulasse. Par contre, qu'est-ce qu'il compense dans l'intensité au rebond, enfin, c'est un truc de fou. Hein.
Non, il est très très impressionnant. Puis, vraiment, les seconds couteaux de New York sont très impressionnants. Parce que même Precious Achiuwa, les gars comme ça, hyper précieux. Enfin, franchement, pourtant, les Knicks, depuis 3-4 mois, ils tournent à 7-8, maximum 9. Leur rotation, c'est maximum 9 joueurs.
Ah, Thibodeau, hein.
C'est du Thibodeau pur et dur. Hein. Il reste dans ses principes, ça, pour le coup. Il n'en démord pas. Mais putain, ils ont du cœur, les cons. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Donc, bon, on verra bien ce que donnera. On va peut-être revenir.
C'est ce qui manque à Philly. Hein. Tu regardes, genre Buddy Hield, il joue même plus.
Non, bah lui, il est complètement sorti de la rotation pour le coup.
Et pourtant, il ferait du bien. Enfin, je dis pas que c'est pas bien de l'avoir fait sortir de la rotation. Hein. Je pense que de toute façon, il était cramax. Mais un bon Buddy Hield ferait du bien aux Sixers. Hein.
Bah, c'est sûr, parce que ça manque un peu de shoot à l'extérieur. Hein. Bon, malgré la bonne prestation de Batum au. C'était au match 3, si je dis pas de bêtises, ou match 2, je sais plus. En effet, le shoot extérieur, à part Maxi, qui de temps en temps a de grosses fulgurances, ça donne pas grand chose. Hein. Et Tobias Harris, on peut plus malheureusement compter sur lui, donc c'est compliqué.
Bah après, ouais, Tobias Harris, ça va. On tire beaucoup sur lui, il a raison. Moi, j'attends plus rien de ce mec. Après, c'est vrai que.
Oh, carrément.
Ça fait des années, quoi. Ça fait des années qu'on sait qu'il est surpayé, le pauvre. Hein. Après, moi, je n'en veux pas. Il prend sa moula et il a raison, tu vois. Tant mieux pour lui. Mais après, il compense un petit peu avec de la défense, mine de rien. Et il crée un petit peu. Hein, on va pas. Enfin, voilà. Pour le coup, il fait quelques trucs sur le terrain. Maxey, par exemple, lui aussi, il disparaît du quatrième quart.
Ouais.
Il disparaît aussi. Il manque des gars dans cette équipe. Je trouve que Reed est pas trop mal, et presque, vu que Embiid est vraiment diminué en défense, ça se ressent vraiment beaucoup en dissuasion, et c'est aussi pour ça que Jalen Brunson fait un super match et qu'il attaque la peinture à fond. C'est pour ça que Reed est assez intéressant aussi, parce que j'ai l'impression que défensivement, avec un Embiid très diminué, Reed peut avoir de très bons passages. Mais oui, il y a un supporting cast qui est pas au niveau non plus à Philadelphie.
Non, c'est sûr, mais bon. De toute façon, quoi qu'il en est, ça restera pas pire que les Suns.
C'est vrai.
Quelle arnaque, vas-y, Quentin.
Tu disais que le match était demain, mais le match, le Sixers-Knicks, c'est ce soir.
Ah oui, putain, c'est ce soir. Ah.
Donc, ça se trouve, le podcast sort demain, les Sixers sont éliminés.
Oh bah, félicitations les Knicks.
De même que notre équipe qui peut être éliminée ce soir.
Ce soir, on a qui d'autre qui peut être éliminé?
Les Bucks.
C'est les Bucks, ouais. Mmh. C'est les Bucks.
Oh là 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 là.
Bon bah, félicitations, on va voir.
Ça joue Lillard ce soir?
Non.
Je sais pas du tout justement ce que c'est.
Bon, félicitations à Pascal Siakam pour sa demi-finale de conférence.
Alors on a Rafi qui a prédit un match à 60 points de Middleton.
Bah, je l'ai en TTFL, donc vaut mieux. Hein.
Et bon, bah, je pensais au Knicks Sixers là. Il y a, du coup, je parlais de ça essayer de blesser. Fin de saison pour Bogdanovic, hein, ça vient de sortir. Opération. Voilà. Donc bravo les Sixers. Voilà.
Ouais, alors là pour le coup, tu vois, c'est même pas une guide, là c'est Batum là.
Vous êtes bien dans l'ambiance Bad Boys des années 80, c'est nickel.
Le choc était pas beau, hein.
Ouais. Ouais. Non, c'était pas ouf.
Chris Finch aussi, en fin de saison. Ouais.
Ouais, lui, il est incertain pour le match 1. C'est chaud. C'est chaud. Mais n'empêche, du coup, potentiellement, on a un vrai remake des années 90, un Pacers-Knicks. Waouh. Vrai duel de style, là.
Et ouais, Bogdanovic, c'est double opération.
Garde tranché, comme dirait Damaz.
Oh, non, ça peut vraiment, vraiment être pas mal. Mais en tout cas, pour le moment, ouais, il y a... Bon, jusqu'à maintenant... heure et date d'enregistrement. En effet, il n'y a encore aucune confrontation sur le second tour qui est destinée à l'Est. Est-ce que vous voulez revenir un peu rapidement sur l'Ouest, messieurs? Est-ce que vous avez quelque chose à mettre en avant?
Les Mavs. Ouais.
Alors
ah, c'est pas pour dire que je dis bien.
Ah.
Est-ce que je te vois? Parce que là, mon choix du MVP est connu par Vlad. Et cette personne me déçoit un peu sur ce début de série.
Pas bon playoff, hein. Pas ouf.
C'est moyen, on va dire.
Ouais, très moyen.
Parce que bon, là, le dernier match, je crois qu'il tourne à 20%, truc comme ça. Mm-hmm. Enfin, j'ai entre le premier match où le caractère, enfin le comportement, était pas ouf. Et là, les
c'est pas le dernier match où le comportement est pas ouf. Hein. C'est les 3-4 dernières années.
Non mais là je parlais plus avec ses coéquipiers, tu vois. Ou bon, ok, je peux le comprendre, tu joues avec Maxi Kleber dans ton équipe, je peux envisager que oui, forcément ça te saoule un peu, mais vraiment très déçu de Luka Doncic pour l'instant. On espère qu'il va se rattraper demain, c'est demain qu'il joue. On espère qu'il va se rattraper. Par contre, le reste, pas grand chose à redire, hein. Kyrie Irving est
ouais, il est magistral, hein.
Ouais, j'allais dire au niveau auquel on attendait, mais non, ouais. Il est au-dessus.
Ouais. Non, Kyrie...
Un régal, hein.
Bah, c'est d'ailleurs Kedrick Perkins, d'ailleurs, qui disait que si Kyrie Irving était un 6-6, donc à peu près 1m98 de mètre, il serait l'un des meilleurs joueurs all-time. Hein.
Kedrick Perkins, il dit beaucoup de choses. Hein.
Franchement, pour le coup, je le suis. Je pense que tu lui rajoutes quelques centimètres à Kyrie, ça peut vraiment être
problématique, c'est vrai.
Ouais, très problématique, je pense. Mais c'est vrai que Kyrie, il fait une bonne série, hein, face aux Clippers. Mais d'ailleurs, ouais, face à un James Harden version 2024, hein, n'empêche.
Il est trop bien.
Après, James Harden, ça reste le meilleur joueur des Clippers sur cette série.
Moi, je l'aime bien.
Bah. Ah bah, il est propre. Hein.
Ah bah, plus que propre.
Franchement,
moi, ce que je kiffe vraiment, j'en parlais un peu tout à l'heure en live, ce que je kiffe dans le jeu de Harden, de Harden actuellement, c'est qu'il est plus aussi stéréotypé que époque Rockets et que maintenant il s'interdit pas de shooter mi-distance. Et justement, il a mis pas mal de shoots comme ça. Et en plus, il a une maîtrise totale du tempo du match. Et moi, il me fait vraiment penser à Chris Paul. Et il sait quand scorer, il sait à qui distribuer, à qui laisser jouer, il laisse le jeu venir à lui. Non, il me fait vraiment penser à un Chris Paul comme ça. Et je surkiffe cette version de James Harden. Franchement, c'est trop bien. Mais,
je pense qu'il est comme ça parce qu'aussi, on lui fait confiance. Je pense que, comme pour Kyrie aux Mavs, quand on te met dans des bonnes dispositions et que la franchise essaie de te mettre dans un cadre où tu peux travailler correctement, t'as envie de rendre, même si tu t'en rends pas compte, mais t'as envie de rendre. Moi, je pense que tu vois, Kyrie, là, il y a des anecdotes qui sont ressorties là, où tu fais par rapport au Ramadan, ou dans les autres équipes, les gens lui donnaient une pomme ou une banane. Tu vois ce que je veux dire? Et là, au Mavs, on essaie de lui préparer un truc correct pour qu'il fasse son Ramadan tranquillement. Je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois, si, comme dans l'entreprise, en fait, si ton employé, si ton patron, il te met bien, toi aussi, tu vas lui rendre, tu vas travailler correctement et c'est un échange de bons procédés. Et je pense que, pareil pour Harden, je pense que il est pas aussi, c'est pas un grand communicant aussi, un peu comme Embiid quand il est pas content, mais quand tout se passe bien, on le voit sur le terrain, il le rend tout de suite. Donc je pense que ça joue beaucoup.
Puis pour le coup, Harden a sa décharge quand même. C'est la première fois, je sais pas si je peux dire que les Mavs c'est un endroit sain quand on sait que tous les dingueries qui sont sorties de harcèlement sexuel et tout ces dernières années sur les Mavs. En tout cas, je parle d'un point de vue extérieur sur le vestiaire, qui a l'air d'être un endroit un peu plus sain quand même que ce qu'il a connu avant à Philadelphie, où on voit bien que c'est un bourbier. En plus, lui, il avait sa brouille personne avec Daryl Morey, à Brooklyn, où c'était à feu, à sang, le truc, et, où Steve Nash était en embrouille avec machin, que machin était en embrouille avec machin, que Kyrie était en embrouille avec la terre entière. Laisse tomber. Et que, à Houston, sur la fin, où Harden voulait partir, que il y avait déjà ces trucs avec Morey, et que personne s'écoutait. Donc là, je me dis, pour le coup, Harden, ça lui change. Là, il est dans un environnement sain. Pareil pour Kyrie, ils sont dans des environnements sains, ou en tout cas qui ont l'air d'être des environnements sains, où tu peux performer correctement. Mm-hmm. Et c'est sûr que ça se ressent sur le terrain et dans leur attitude. Hein.
Bah, et puis surtout, je pense que ce qui fait majoritairement aussi la différence maintenant pour James Harden, c'est qu'il a beaucoup moins de poids sur les épaules. C'est que là, il est la troisième option des Clippers, et je pense que c'est un peu pareil aussi pour Russell Westbrook. Alors attention, à moindre mesure, hein, mais voilà, où ils ont plus le poids d'avoir une franchise réellement à porter. Et là, en fait, on le voit juste libéré, en fait, Harden, parce que comme tu le disais tout à l'heure, très justement, je crois que c'était toi, Vincent, tu le comparais à Chris Paul. Bah, en effet, tu sens que le mec, il est à l'aise avec, enfin, il est plus ou moins apaisé avec lui-même, et du coup, il est capable de composer et de jouer et de laisser le jeu venir à lui, parce qu'il a plus justement cette pression à devoir absolument imposer quelque chose, à devoir s'imposer, parce
qu'il est plus le système.
Chess player, voilà.
Voilà, quand il dit je suis le système, là, il a compris qu'il n'était plus le système. Et voilà. C'est bien comme ça, une équipe où il n'est pas le système. Et je pense que c'est ça le problème des Mavs. Hein. Le problème des Mavs, c'est que c'est Luka le système. Et quand Luka est pas en phase avec son shoot, on va me dire que Luka prend des shoots de merde. Mais oui, mais c'est des shoots de merde. Sauf que Luka, il les met d'habitude. Et quand moi j'ai tendance à penser que quand tout dépend d'un joueur et notamment d'un ball handler dominant. Parce que finalement tu fais un copier-coller, Luka, ça ressemble pas mal à comment les Cavs jouaient, à comment les Rockets se jouaient, à comment les Suns de Nash jouaient, et finalement tout ça c'est des équipes qui sont construites sur la même ossature, et moi j'ai tendance à penser que ces équipes c'est pas des équipes qui peuvent aller au bout, ou qui sont trop dépendantes d'un joueur, en fait.
Et c'est là où on peut avoir une vraie différence. Et c'est pas pour déplaire à Quentin, les Clippers jouent mieux sans Kawhi. Voilà.
Enfin, la fraude est révélée au grand jour.
Oh, t'es dur. Et
un peu de ça.
Apaise ton cœur. Apaise ton cœur.
Non. Enfin, tu me diras maintenant, je me suis un peu apaisé. J'en veux plus à tonton qu'à lui.
Ah bah, oncle Denis, ouais, j'ai trois mots à lui dire. Ouais.
Alors, le jour où je vais à San Antonio, l'oncle Denis, j'espère qu'il sera pas en vacances à San Antonio et qu'il n'y aura pas de ruelle sombre à côté. Ça pourrait très très mal finir.
Voilà, on aura un futur épisode de Faites entrer l'accusé. Voilà.
Moi, ça me fait mal au cœur, hein, pour Kawhi. Ça me fait vraiment mal au cœur, cette situation. Il refaisait enfin une très bonne saison. Tu sentais qu'il y avait un coup à jouer avec ses Clips. Même si je pense quand même, hein, que même sans Kawhi, ils ont leur chance face à Dallas, qui est normalement par favori. Mais ça fait tellement mal au cœur de le voir comme ça. Tu sens qu'il a voulu jouer, qu'il est revenu évidemment trop tôt. Ça s'est vu sur le terrain, et ça a impacté la performance de son équipe. Mais que les dieux du basket le laissent tranquille, au moins une saison, quoi.
C'est vrai, ouais, mais le problème, c'est que l'organisation des Clippers est un peu comme toutes les organisations de sport en général. Il faut pas penser d'abord au business, il faut penser d'abord à l'humain. Là, l'humain, s'il est malade, ton business ne fonctionnera pas. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Je pense qu'il y a aussi une démarche à ce niveau-là. On met en avant les intérêts d'argent par rapport à l'humain qui fait fonctionner, qui fait générer de l'argent. Et là, je pense que là, en temps normal, on l'aurait laissé au froid, tranquille. On dit ok, c'est t'inquiète, prends ton temps pour jouer correctement.
Je pense que c'est lui qui voulait jouer. Hein. Je pense vraiment que c'est lui qui voulait jouer. Et je pense que les Clippers, ils sont intelligents et qu'ils ont compris que Kawhi est. C'est aussi ce que j'ai entendu un peu des échos de Nicolas Batum qui disait que, tu sais, quand il était dans le vestiaire, que Kawhi, il savait pas s'ils allaient rejouer et que Nicolas Batum, il disait, bon, moi non plus, j'en sais rien. Je pense que les Clippers ont appris de l'affaire Spurs et ne se mêlent pas du tout des trucs de Kawhi. Kawhi, il fait ses bails de son côté et il joue quand il se sent prêt. Je pense vraiment que ça se passe comme ça chez les Clippers.
Mmh. Ok. Ouais.
Bon, bah, à voir, en effet. Bon, vrai, ouais. C'est vrai que ça, ce serait toujours agréable, en effet, de le revoir sur les parquets, parce que malgré tout, ça reste un excellent, voire même joueur exceptionnel. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a pas mal abordé. Alors, on a exprès pas abordé le sujet des Lakers et des Suns, hein, entre autres, parce que il se peut qu'on en parle d'ici quelques instants. Mais dans un premier temps, je vais laisser Loris nous faire l'exposé du sujet de la semaine.
Il était une fois, dans une ligue de basketball professionnelle dirigée par le noble, mais très avare, Adam Argent, une bande de joueurs qui avaient tous bien dépassé la trentaine. Kawhi Leonard, Kevin Durant, Stephen Curry ou encore LeBron James. Si tous étaient de grands champions, ils sont désormais, chacun de leur côté, dans des situations inquiétantes. Si cette chronique était une vidéo, vous verrez les pages d'un livre se tourner, et peut-être dans ce cas précis, la page suivante serait « The End ». Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris, aka Catch and Shoot, et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité. Un coup de cœur, un coup de gueule. Cette semaine, on va faire dans l'émotion et se rappeler de bons souvenirs, car peut-être que nous assistons au plus grand tournage de page de l'histoire de la Ligue. Oui, ça se dit. Donc, vous l'aurez compris, cette chronique est sponsorisée par... Et tout de suite, la vie en rose d'Edith Piaf, version Jeux Olympiques 2024.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose, qu'il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
Et on va l'avoir dans la tête après.
Combien de degrés j'aime bien.
Prenez mon argent.
Et aujourd'hui avec nous, nous recevons Vincent Poulain, le Corto Maltese de la chaîne du Crossover, journaliste pour le groupe Vroom ou Vroom, je ne sais pas comment on dit, tu me le diras d'ailleurs, dont font partie le Crossover, donc, mais aussi le French Flair, les Tricolores et Boxing Academy, où notre invité a réalisé un épisode exceptionnel sur la famille Vastine, que je vous conseille tous. Oui, je vous l'avais dit, on va être dans l'émotion aujourd'hui. Je profite de t'avoir sur Forever pour te remercier pour le soutien également, pour tes précieux conseils que tu me donnes sur la création de mes vidéos et tes messages d'encouragement. On a aussi eu la chance de se capter IRL, c'était une super rencontre, mais par contre mec, juste un truc, un tout petit truc, hein, pas grand chose. Arrête avec Manu Ginobili. Parce que chers auditeurs, si vous ne connaissez pas notre invité, sachez qu'il ne vit que pour Manu Ginobili. Ça en frôle d'ailleurs l'obsession. Et oui, je sais que tu as envoyé des messages à notre Brice Anou et à Laurent de Kings FR pour connaître le secret de leur calvitie et te rapprocher de ton idole, mais ils peuvent rien faire pour toi, je te l'assure. Je sais aussi que tu as fait parvenir aux acheteurs de votre livre La NBA c'est quoi, des extraits de ton futur bouquin qui s'intitulera Mi Bataya ou Le Ginobilisme expliqué pour les nuls. En voici d'ailleurs un extrait.
Oui, Manu a tant aimé le monde qu'il a donné ses cheveux aux Spurs. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle.
C'est le Manu 316 ou 316, aucune référence à Steve Austin bien entendu. D'ailleurs ta femme a demandé de te convaincre qu'appeler ton futur fils Manu Emmanuel Mani, Emmanuel Imanol, Manolo, Manolis Poulain, c'était peut-être exagéré. Et elle m'a aussi dit de te dire que si tu pouvais réécrire de la main droite sur la to-do list de votre frigo à la maison, ça serait pas mal parce qu'elle a pas fait généraliste LV2. Et que si tu pouvais te désinscrire de ton club de chasse aux chauves-souris, ça serait pas mal aussi. Sans transition, parce que flemme, revenons à notre sujet de la semaine. À l'heure où j'enregistre cette chronique, les Clippers sont menés 2-1 avant leur match de ce soir, les Lakers perdent 3-1 et les Suns risquent le sweep quant à eux. Si ces trois équipes sautent dès le premier tour des playoffs, cela marquerait vraisemblablement un tournant dans l'histoire moderne de l'NBA, car comme je l'ai dit, Kawhi, Durant et LeBron seraient éliminés, rejoignant ainsi Stephen Curry à Cancun, qui doit en être déjà à sa 8ème tournée de Piña Colada. Anecdote, si les Suns et les Lakers sautent, ce sera la première fois depuis 2005 que les demi-finales de conférence se joueront sans LeBron, ou Curry, ou KD. La dictature était totale, et je parle pas de toi Vladimir. Les plus jeunes d'entre vous ne se rendent pas compte du délire, mais si tout ce joyeux monde décide de prendre des billets groupes la semaine prochaine, on se priverait en cumulé de 12 titres de champion NBA, 7 titres de MVP, 9 titres de MVP des Finals, et plus de 107 000 points marqués en carrière. Donc là, ce serait pas une page que l'on tournerait, mais potentiellement l'écriture d'un nouveau tome. Et encore là, je vous parle que de ces 4 joueurs-là, mais on pourrait également rajouter dans le désordre James Harden, Russell Westbrook, Paul George, Damien Lillard, Bradley Beal, Klay Thompson ou encore Chris Paul. Même si c'est donc très très mal embarqué pour ces équipes, je vais pas les tailler tout de suite, on va attendre les résultats définitifs pour ça. Sauf les Suns, parce que eux ils méritent. Avec leur roster tellement pas équilibré qui donnerait à Thanos l'envie de faire un nouveau génocide et leur leader porté disparu que même Dupont de Ligonnès en serait jaloux, non, vraiment ils méritent. Et c'est bien dommage parce que leur commu française, elle régale. Messieurs, je vous laisse désormais nous donner votre avis sur cette faillite presque totale pour ces monstres de la balle orange. Moi je vous laisse en musique.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Ah mais il est insupportable ce soir.
Des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose.
On sent qu'il habite à Marseille, ce garçon, c'est incroyable.
Voilà, version,
nouveau son de l'été.
Ouais, c'est l'ambiance de fou.
Aïe, 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 c'est un grand malade. Merci, Loris, pour cette introduction sur le débat de la semaine. Peut-être une petite réaction à chaud, Vincent.
Le ginobilisme vaincra, évidemment. En tant que grand gourou, que dis-je, grand maître du ginobilisme, non, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que ça devienne la religion d'État. Et Timo, pour Loris, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que ses chroniques, elles sont trop, trop drôles. Et je suis content parce que ça se sent qu'il prend du plaisir quand il le fait. Et je trouve qu'il progresse de fou. Ses dernières vidéos sont vraiment trop, trop bien. Et plus important encore, c'est un très bon mec. Je peux dire que c'est même plus qu'un pote. Hein, c'est un ami. Et voilà, des gars comme lui, il en faudrait plus et il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Et ça, c'est bien quand il n'y a pas de guerre dans le monde.
Ouais, c'est vrai que c'est pas tout mal. Et on aurait moins de space pour frauduleux des Sixers.
Le résumé qu'il a fait, il est à mourir de rire.
Ah ouais, non, d'ailleurs, ouais, n'hésitez pas à checker le résumé de 34 minutes hein, sur le space des Sixers.
J'ai pensé là à la pause déjeuner, comme je disais dans le groupe, on aurait pu mettre la musique de Benny Hill derrière, tellement c'était fort.
Franchement,
c'était incroyable.
Tu sais quoi, ça me fait penser ce résumé avec le temps du space en lui-même et le temps du résumé. C'est le hold possession replay sur le League Pass.
Bon, pour revenir quand même sur le sujet, maintenant, alors en effet, comment dire, l'introduction avait un petit peu été anticipée. Donc, en effet, ni les Lakers, ni les Suns et ni les Warriors, vu qu'on va surtout parler de Stephen Curry, de LeBron James et de Kevin Durant, vu que Kawhi Leonard, pour le moment, est toujours en lice, même si on a abordé son état de santé il y a encore quelques minutes. Tous les trois sont éliminés, donc il n'y a aucun des trois qui est sur ce second tour, ce qui n'est pas arrivé donc depuis quelques années. On est réellement là, ça y est, sur une page qui se tourne. Là, on a toute une génération, en dehors de LeBron James qui lui est de 2003, mais une génération fin 2000, début 2010 qui commence réellement à se tourner.
Ah bah. Ah. En plus, ça me fait penser.
Il y a un passage de flambeau, hein. Je pense que là. Ouais. Les jeunes ont la dent longue. Ils ont décidé de prendre le contrôle un peu. Comme dans toutes les générations, hein, il y a toujours un passage de flambeau. On a eu Magic, on a eu Jordan. Il y a toujours une transition. Et je pense que là, les petits, ils ont faim. Hein. Ils ont envie de croquer dans le gâteau. Donc,
mais là, tu vois, ce qui fait un peu bizarre, c'est que du coup je pense qu'on est, tous à peu près la même génération, on arrive sur la trentaine, on l'a déjà un petit peu.
Quentin, ça reste à voir.
Un petit peu moins ici.
Aïe aïe aïe, le genou.
C'est terrible.
Mais en tout cas, moi, ça m'avait déjà mis une claque de voir les idoles de ma jeunesse prendre leur retraite, tu vois. Les vagues de retraite, enfin, Duncan, derrière Wade, Nowitzki, Garnett, tous ces gars-là, tu vois. Genre, ça a fait quelque chose. Mais là, c'est encore plus bizarre de voir des mecs que t'as vu drafter prendre leur retraite. Et donc, tu te dis, ah, ok, j'ai assisté à toute la carrière de ce gars.
C'est okay. Ça.
Et ça met un coup de vieux, mon pote. C'est une dinguerie.
Bah, ça met un coup. Ouais, ça met un coup de vieux, mais enfin, on parle en effet de passage de flambeau. Moi, je trouve que le passage de flambeau, il est quand même violent parce que t'as des mecs comme Anthony Edwards. On va être obligé d'aborder le sujet. C'est même plus abattre l'ennemi.
Le flambeau, il l'arrache.
Ah non, mais c'est... ouais, enfin...
Et derrière, KD, il dit « Oui, je suis ta pute, il n'y a pas de problème.
Mais... »
Mais,
c'est,
mais plus... où est ma panda? Où est ma panda?
Mais... mais tu vois, en plus, c'est... Voilà, bah, en plus, dans ce sens-là, c'est marrant parce que tu as quand même des éléments de communication qui sont aussi différents. C'est là que tu vois, il y a aussi c'est une autre génération parce qu'il y a toujours cette génération fin des années 2000 où c'est toujours un peu, entre guillemets, l'ancien monde, où t'as Kevin Durant qui dit « Bon, voilà, ce joueur, je le respecte énormément, etc. » À côté, t'as Anthony Edwards, il fait « Moi, je suis là pour abattre l'ennemi, hein, grosso modo. » Et pareil, pour les Nuggets face aux Lakers, où t'as Jamal Murray qui disait « Voilà, j'ai toujours grandi avec LeBron, mais maintenant, c'est it's my time. C'est voilà.
LeBron, pas LeBron, on bat les couilles.
On bat les couilles, frère. C'est ça, exactement. Donc, c'est vrai que c'est marrant quand même ce passage de flambeau qui se fait. Alors, on va le voir aussi peut-être. Est-ce que c'est pas aussi des prémices d'un futur passage de flambeau qu'il va y avoir là entre les Pacers et les Bucks aussi? Bon, contexte un peu différent. Hein. On va pas non plus le nier, mais. À voir, ouais, à voir ce que ça va donner. Bon, pareil, t'as le Thunder qui est en train de complètement, qui ont complètement ratatiné les Pelicans. Hein. D'ailleurs, pour la petite info, c'est Zion Williamson qui est encore le seul de sa cuvée, je crois, de draft, à pas encore avoir connu de playoff, un truc du genre. Bon, enfin bref, c'est une stat qui fait mal. De match de playoff.
Genre du premier au deuxième tour, ils ont tous connu les playoffs.
Non, je crois pas que c'est comme ça. Mais...
NBA, peut-être.
Ouais. Mais en tout cas, ouais, de tous ceux qui sont encore NBA, je crois que c'est le seul à ne pas avoir connu de match de playoffs. Donc c'est pour dire. Mais bon, là on dévie un peu sur le sujet. Toi, Polo, du coup, ouais, toi tu parlais de passage de flambeau justement, de passage de témoin. Quel est un peu?
Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Je pense que les jeunes n'ont plus peur de. Tu vois, il y a un peu à l'époque, il y a un peu ce droit d'aînesse quand tu voyais un ancien, tu disais bon, c'est mon ancien. Un peu comme aussi comme dans la vie, tu respectes un peu. Tu dis bon, il connaît un peu les trucs, donc je vais y aller mollo. Mais là, je pense que les jeunes, ils ont décidé que maintenant, à nous de prendre les choses en main, à nous de prendre le guidon. On n'a plus envie de se faire baratiner par les anciens, là. C'est fini, cette époque-là. Ils vont pas nous
après, ouais, pour nuancer un peu ce que tu dis, quand même, Iverson, quand il rencontre Jordan, il n'y a pas de droit d'aînesse ou quoi, hein, il le cross sale, hein. Tu vois,
ouais, genre, ouais. C'est vrai, mais je pense que les jeunes qui rentrent dans la ligue, y a au début même, quand on regarde les matchs, hein, on sent qu'ils sont un peu, tu vois, ils veulent pas trop en mettre, à part, comme tu dis, le cas d'Iverson. Mais moi, je vois, hein, ça fait un moment que je suis. Les jeunes, quand ils rentrent, ils sont un peu timorés, tu vois. Mais là, je pense que c'est des jeunes qui ont compris que s'ils veulent se faire entendre, il faut envoyer des messages. Et je pense que là, tout le monde qu'on a cité, que ça soit du côté de OKC, du côté de Minnesota, je pense que dans ces cas-là, il y a aussi une bonne construction. Un mélange d'anciens et de jeunes, à part pour OKC où il y a vraiment que des jeunes. Mais je pense que toutes les équipes qui sont performantes, ils ont trouvé la bonne formule aussi. C'est assez intéressant aussi à voir.
Et cette bonne formule, elle veut dire aussi... moi, je pense pas que c'est la fin des super teams, mais je pense que les gens commencent... Parce qu'il y aura toujours des GM pour être tentés. Tu sais, c'est le même, les mêmes erreurs encore et encore, tu vois, le truc de SNK. Je pense que là, les gens, ils ont pigé, tu vois. Ils ont pigé que les super teams, c'est finito, tu vois. Que c'est plus, c'est pas comme ça que tu bâtis une équipe qui gagne. Je pense que voilà, les Nuggets ont entériné ça. Avant ça, il y a eu les Bucks. Enfin, je pense que là, c'est bon. Enfin, maintenant, l'exemple du Thunder qui est l'anti-super team. Bon, même si eux, pour le coup, c'est le tanking à outrance. Mmh. Mais du coup, je pense que là, pour le coup, les équipes NBA ont pigé que c'était la fin d'une ère, la fin de l'ère des super teams. Et ça aussi, en soi, c'est la fin de quelque chose, quoi.
Bah, alors, c'est la fin des super teams. Ou en tout cas, peut-être un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place, où là, on est vraiment sur des visions beaucoup plus long-termistes qui vont prendre le dessus. Mais est-ce que là aussi, avec maintenant la toute nouvelle génération, je vais prendre ceux qui sont là depuis maintenant 3-4 ans minimum, est-ce que moi, j'ai l'impression qu'on a un réel passage de flambeau entre encore vraiment vraiment une caste de superstars qui étaient purement américaines, mais qui maintenant sont vraiment globales, c'est vraiment international maintenant. Est-ce qu'on n'a pas vraiment... Est-ce que là, on n'est pas sur un tournant vraiment, peut-être même historique, du basket, enfin de la NBA, qui est vraiment maintenant tournée complètement à l'international?
On l'avait déjà eu un petit peu quand même avec la génération Yanis, Jokic, quand ils prennent le pouvoir, et que là tu te dis, ah ok, d'accord, donc les deux meilleurs joueurs du monde ne sont pas américains, très bien, what the fuck. Et là, c'est vrai que c'est d'autant plus exacerbé, où tu te dis que voilà, Wemby il est français, que tu regardes les 5 meilleurs ricains, tu regardes les 5 meilleurs restes du monde, tu dis, ah ouais, je vais peut-être prendre le reste du monde finalement. Ouais. Tu dis que des mecs comme Shai, ils sont pas ricains. Enfin, c'est sûr. Et puis même juste, tu regardes la prochaine draft, tu regardes la mock draft et tu vois que il y a pas tant que des ricains que ça dans les deux tripiques. Donc oui, c'est sûr que là, pour le coup, on entre dans une ère où le basket est global et globalisé plus que n'importe quel sport américain. Là, c'était déjà le cas par le passé, hein. Mais là, c'est encore plus fou, quoi. Ça va faire que exploser, hein. De toute façon, là, il y a la balle qui a été lancée avec Masai Ujiri et compagnie. Vous inquiétez pas, les gars, dans 15 ans, même pas, dans moins, dans 8 ans, 9 ans, on va avoir des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, pourquoi pas, premier choix de draft. Nigérian, c'est différent, parce que pour le coup, au Nigeria, ils ont quand même je crois même que c'est historiquement le plus gros contingent étranger en NBA derrière le Canada. Donc eux, pour le coup, ils ont une vraie histoire avec la NBA, mais ça va faire que se développer en ce sens, hein.
Michael Olowokandi.
Oui, bon, voilà, ça arrive à des mecs bien.
Mais
regarde, nous on a bien eu Killian Hayes. N'en déplaise Enzo.
T'es au Meldon.
Ouais, aussi. Ouais. Meldon, ça va, c'est un second tour, tu vois.
Ouais, mais d'ailleurs, en plus, dans ce sens-là, parce que là vous parlez de la draft des Français, pareil, sur la draft à venir, on a 15 Français qui se présentent.
Ouais.
C'est énorme. Enfin, on n'a jamais eu autant de Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura qu'un sélectionné. Hein.
Il y en a qui se placent très très haut quand même.
Il y en a qui peuvent être potentiellement très haut.
On peut faire 1-2, c'est clair. Je pense pas que Rizaché et Sarr feront 1-2, mais c'est une très grosse possibilité. Mm-hmm. Et c'est ce qui est annoncé dans la plupart des mock drafts. Et on peut potentiellement, avec ce Saloon, on peut potentiellement viser 3 loteries pick. Hein.
Ouais.
Ce qui serait incroyable, quoi.
Mm-hmm. Non, clairement. Donc, c'est vrai que là, on est vraiment sur un virage qui se fait. Toi, ton analyse un peu sur tout ça, Quentin ?
Sur les Européens ou
sur la question en elle-même, ouais.
Parce que moi, j'étais en train de repenser du coup à nos trois. Je vais dire juste les trois parce que Kawhi, je le compte pas trop, tu vois, dans cette comme tête d'affiche dans cette ère, tu vois.
Ok.
Je le compte un peu derrière les Curry, tout ça, parce que bon...
Stephen Curry, LeBron James et Kevin Durant.
Parce qu'on en a parlé vite fait tout à l'heure, quand même.
Je pense que KG, il n'est pas dans la même catégorie que les deux mecs cités avant.
Ah ouais ?
Au niveau... Je pense que KG sera plus iconique que Kawhi dans 15-20 ans, tu vois.
Ah, mais il est déjà.
Oui.
Oui, non, mais je te parle de Kevin Durant. Lui, il n'a rien à faire dans la même conversation.
Ah oui, il est derrière les deux. Il est bon troisième. Il est bon troisième, ça on est entièrement d'accord. Mais tu vois, cette chute, entre guillemets, ça fait déjà un petit moment qu'on commence à l'avoir. Hein. Déjà les Warriors, Moi, je l'avais dit dès l'année dernière, avec du coup, quand ils perdent contre les Lakers au second tour des playoffs, où j'avais dit, putain, le titre 2022, ça ressemblait quand même vachement à un chant du cygne pour ces Warriors.
Ouais.
La trajectoire, finalement, me donne raison. J'avais moins anticipé LeBron et KD, même si LeBron, depuis le titre de 2020, tu commences quand même à le sentir que lui, il ne peut plus faire comme avant.
Ouais, mais il est encore très fort. Hein.
Le
4-1 est sévère. Hein, le 4-1 est sévère.
Comme le 4-0 de l'année dernière, parce que c'est très serré. Hein.
Et
comme
franchement, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'autres équipes, qui vont poser autant de problèmes à Denver. Hein. Donc, Tonton, il a 38. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. Il a 38, 39 ans. Je sais plus quel âge il a, LeBron. 39. Franchement, le frérot, il a au moins encore 4 ans dans les pattes. Hein, facile. Hein.
Ouais. Ah ouais, non, mais je parlais plus, tu vois, déjà son physique. Parce que on le sait tous, LeBron, ça a quand même été un mec.
Elle est moins
explosive. Qui ratait pas beau. Non, mais je pense plus aux blessures.
Oui.
Tu vois, parce que le mec avait jamais connu de grosses blessures. À part depuis qu'il est à Los Angeles, du coup. Forcément, tu vieillis, c'est normal. Donc lui, tu commences à le voir, mais lui, c'est plus logique que les autres parce que le mec, il va avoir 40 ans et au bout d'un moment, forcément, tu vas plus autant peser sur les résultats de ton équipe. Tu dois te reposer sur des gens, coucou Anthony Davis. Mais bon, si tu te reposes sur des mecs qui font une seule saison 60 matchs en 6 ans, ouais, c'est un peu plus galère, c'est sûr. Et en vrai, celui que je voyais le performer le plus, c'était Kevin Durant, parce que on connaît son amour pour le changement d'équipe. Que ce soit Warriors, Nets, Suns,
le futur Wolf, futur Wolf,
le futur Wolves, le futur Spurs pour jouer avec son papa Wemby. Enfin, tu vois, on sait, donc c'est pour ça, moi, KD, je le voyais toujours être dans une équipe compétitive. Peu importe ce qui pouvait se passer dans l'équipe actuelle.
T'inquiète, il va rejoindre OKC à l'intersaison.
Ouais, c'est possible. Mais là, tu vois, au final,
enfin, j'ai toujours l'impression que KD, c'est quand même des, entre guillemets, des choix un peu court-termistes. Parce que là, pour le coup, ces dernières années, pour lui qui est censé aimer le basketball et puis des stratégies, des choses qui sont un peu pérennes. Je trouve le choix des Suns, pour moi, il est un peu, enfin, entre guillemets, pour moi, il est un peu bidon. Alors, peut-être c'est parce que je suis trop dans l'analyse et puis parce que j'aime ce sport aussi. Mais je pense que là, comme le dit souvent notre ami Mapenda, monter une équipe avec trois joueurs super défensifs et pas avoir de banc, c'est un peu limité si on veut faire des trucs dans le temps. Tu vois, et surtout si les trois que tu as récupérés peuvent se blesser à tout moment. Donc, au niveau du choix sportif.
Mais c'est moi j'ai une théorie là-dessus. C'est on le sait, il est assez actif sur les réseaux sociaux quand même avec ses 150 000 contre Kevin Durant. Ouais. Alors tu sais, quand il a vu OKC n'importe quoi, les Warriors champions 2022.
Ouais.
Il a dû voir qu'il se faisait vanner parce qu'on les a vus toutes les vannes. Curry peut gagner 100 et avec KD, machin, pendant que KD se prenne un sweep au premier tour. Voilà. Donc moi, je pense qu'il a dû voir les trucs comme ça. Il s'est dit, putain, faut que j'accélère, faut que je montre que je peux gagner sans Stephen Curry. Bon, ça a l'air un peu raté pour l'instant.
Oui, hein, de toute façon, c'est vrai que, après les Legacy, en effet, hein, et c'est pour ça que je rejoins aussi. Vincent, en disant que de toute façon, oui, pour moi, Kevin Durant n'a rien à faire dans la même classe qu'un Stephen Curry ou un LeBron James. C'est que malheureusement, je demande. Alors, ça restera un joueur exceptionnel. Sur ça, il y a absolument rien à redire sur le talent, individuel qu'il a.
Sur le niveau de jeu incroyable qu'il a affiché, voilà.
Ah oui, sur ça. Pour le coup, voilà, il y a absolument rien à dire. Mais putain, qu'est-ce que ça aurait été un fossoyeur de projet sportif, lui.
Exactement ça. C'est exactement ça, le problème.
Désolé, Mapenda, mais là, je suis obligé.
Les jugements qu'on a eus sur lui, c'est justement à cause de ça. C'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait tellement à donner au basket. Et puis, ce que tu vois, ce qu'il en donne, en fait, c'est comme si un enfant à l'école, on lui met sur son cahier de... Mais peut mieux faire, vous avez tellement de talent, mais vous pouvez tellement faire plus de choses que là, vous vous contentez d'avoir 10, 12 sur 20, alors que tu peux avoir 18, tu peux avoir 19, tu te contentes d'avoir 10, 12, et t'es content, tu vois, ça va, j'ai 12, ça va.
Moi, j'ai une question.
Ouais.
J'ai une question par rapport à ça, c'est quoi la legacy de Kevin Durant? Alors oui, il y a, une forme de... non, mais c'est, je le dis de manière très... Enfin, très sérieuse, hein. C'est quoi la legacy de Kevin Durant? Oui, alors il y a beaucoup de joueurs qui s'inspirent de lui, donc ça, c'est une partie de sa legacy. Par exemple, Wemby, on sait que c'est le joueur qui l'a le plus regardé, et on sait que pour tous ces morphotypes de joueurs minces, très longs, bah, du coup, à la Wemby, à la Chet Holmgren et à tous les ovnis qui vont arriver de plus en plus en NBA, pour le coup, KD va être un peu le prototype originel. Et donc ça, c'est une partie de la legacy de Kevin Durant, très bien. Et sinon, c'est quoi la legacy de Kevin Durant?
Et tu veux rigoler? Tu veux rigoler, Vincent? J'étais en train exactement de me poser cette question. je me disais, mais en fait, Kevin Durant, ça se trouve, enfin, ça se trouve, c'est un blasphème de dire ça, mais ça se trouve, d'ici 15 ans, on va l'oublier, parce qu'il y aura peut-être des joueurs qui vont complètement le surpasser. Et là, je suis dans la pure fiction. Ça se trouve, à Anthony Edwards, il va complètement le surpasser.
C'est possible.
On ne sait pas. Hein. On ne sait pas ce que réserve l'avenir, mais
du coup,
bah, franchement, je ne sais même pas quoi en penser, sa legacy.
Du coup, j'ai la même question, mais pour le quatrième.
Kawhi.
Ouais.
Non, Kawhi, l'histoire retiendra que à son prime, c'est un des seuls joueurs qui a regardé LeBron James dans les yeux.
Bah, KD aussi, du coup.
Ouais, c'est pas faux. Mais sauf que Kawhi est allé chercher deux titres... parce que c'est vrai que 2014, il n'est pas à mettre à son crédit. Il est allé chercher 2019, et il aura, quoi qu'il arrive, ce shoot incroyable au Game 7, ouais, demi-finale de conférence contre Philadelphie. Et mine de rien, oui, c'est un shoot, mais c'est un moment qui marquera l'histoire. Moi, j'en parlais tout à l'heure avec je sais plus qui, j'en parlais avec Guillaume, le sixième homme, et il me disait qu'il était en train d'essayer de voir un peu dans les shoots les plus iconiques du basket, et je lui disais, moi, ce shoot-là, ce qui lui manque pour être le shoot le plus incroyable de l'histoire du basket, c'est qu'il soit pris en finale NBA, quoi. C'est le seul truc qui lui manque. Ok, c'est un shoot, mais les carrières sont faites sont faites de moments comme ça.
Bah, je vais même aller plus loin que le simple shoot face à Philly en demi-finale de conf. C'est, pour moi, c'est l'une des plus grosses campagnes de playoffs de l'histoire qu'il fait. C'est, ouais. Enfin, quand tu regardes sa campagne de playoffs, elle est parfaite. Enfin, il y a quasiment rien à dire dessus. Mm-hmm. Mais en effet, t'as l'impression que Kawhi, malheureusement, bon, certes, il est MVP des finales en 2014. Bon, à mettre à son crédit ou pas, peu importe.
Il fait des grosses finales.
Il fait de bonnes finales. Attention, il fait de très bonnes finales, mais c'est pas le niveau de 2019, quoi. Voilà.
Disons qu'il n'était pas tout seul à pouvoir y prétendre. Hein. Franchement, moi, tu le donnes à Tim Duncan en 2014.
Bien sûr.
Ou tu le donnes à...
Tim Duncan, oui.
Même à Tim, en vrai, c'est pas déconnant.
Hein. Il aurait mérité aussi. Enfin, franchement, il y avait du monde.
Ils étaient quatre. Ouais. Ils étaient potentiellement à
l'avoir. Il fait très belle finale en défense sur LeBron, quand même.
Ah oui. Ça... Après, ça c'est sûr.
Alors, perso, j'aurais préféré voir Danny Green et... Non, je déconne.
mais en vrai, mais c'est vrai que Kawhi Leonard, franchement, moi, la seule chose que tu retiens réellement, oui, en effet, c'est son run de 2018-2019. Pour moi,
même avant ça, t'as quand même la saison exceptionnelle qui, pour moi, est une saison de MVP, mais vu que Westbrook...
2016-2017.
Le storytelling pour lui, mais où il est en 2016... J'ai pas peur de le dire, en 2016-2017, Kawhi Leonard est le meilleur joueur au monde.
Ah, il est trop fort. Ah non, mais il est beaucoup trop fort.
Je veux dire, il est le meilleur joueur au monde, genre devant LeBron. C'est lui. Il est le gars. Il est this guy.
Ah, ça
mais
c'est
tu vois, cette saison, elle est trop bizarre. Parce que ça aurait pu lui permettre, bah là, tu vois, justement, moi, je disais, il est derrière les trois. Enfin, après, je pense que Kevin Durant est plus proche de Kawhi Leonard en termes d'impact sur leur ère, d'impact de legacy, tout ce que vous voulez. Je pense que KD est plus proche de Kawhi que des deux ovnis qui sont au-dessus. Mais tu vois, cette saison 2016-2017 de Kawhi Leonard, en fait, d'un côté, c'est, on peut dire que c'est sa meilleure individuellement.
Oui.
Il n'y a pas de scandale à le dire, je pense. C'est sa meilleure individuellement. Et d'un autre côté, c'est aussi le début des emmerdes.
Bah ouais.
Zaza
trop... Ah mais Zaza, pareil, tu vois. C'est comme l'oncle.
Non mais Zaza...
Ouais, mais... Bah, alors, tu vois, justement, vu que tu voulais comparer justement Kawhi et Kevin Durant, moi je suis désolé, hein. Le pic de carrière, moi je prends 10 000 fois Kawhi. Hein. Je prends largement 2019. Même s'il y a deux titres, hein, 2017 et 2018, enfin, c'est des contextes qui sont complètement différents. Il y a la zone de confort. Désolé de revenir sur le sujet, mais il y a la zone de confort de Kevin Durant en 2017-2018, quoi qu'on veuille. Pour moi, on ne se rend pas compte de la dinguerie qu'est la saison. Alors attention, après, il a une bonne équipe, il a une très bonne équipe aussi à Toronto. Hein, c'est vraiment l'upgrade des Mar de Rosan. Il surnage. Il est sur un nuage pendant toute la saison 2018-2019. Il est intouchable.
Ouais, enfin, c'est zinzin, hein, ce qui fait vraiment.
Je ne me rends pas compte.
Et c'est vrai que cette équipe, j'ai pas envie de faire passer cette équipe de Toronto pour des peintres. Hein,
c'est pas
du tout le cas. Pascal Siakam fait des très grandes finales, mais ça reste Pascal Siakam. Sans lui manquer de respect, c'est pas une option 2 dans une équipe qui gagne le titre normalement. En plus, il était en tout début de carrière. Et derrière, les mecs, derrière les autres cadres, les Ibaka, les Gasol, les Lowry, les Danny Green, tous ces mecs-là, je suis désolé, les frérots, ils sont un peu, eux aussi, ils sont sur la fin. Lowry joue encore un très bon niveau. Mais quand même, tu vois, genre Marc Gasol, c'est le début de la fin pour lui. Hein. D'ailleurs, il s'est jamais remis de cet effet-là. Mais
la cuite, la gueule de bois était très longue.
Avec le championnat du monde juste derrière. Mais tu vois, quand même, l'équipe était bonne, mais c'est pas non plus, si tu compares avec toutes les équipes qui ont été titrées ces dernières années au niveau du roster, c'est pas. Ça m'inspire moins. C'est pas les Warriors 2015. Tu vois ce que je veux dire?
Non, bien sûr.
Mais je reprends là du coup pour finir. Enfin bon, après
oui,
pour finir sur KD. Tu vois, il y a toujours. Je parlais de Kawhi 2016-2017, c'est le début des emmerdes. KD, on va toujours revenir à la saison 2015-2016. On va toujours revenir à ça. Et je parle pas de son départ.
Oui, tu parles du choke.
Ah oui. Parce que, putain, mais si OKC ne choque pas, tu vois, pas que lui, parce que ils ont tous fait de la merde.
Suspendre.
Ouais, aussi.
Non, parce que, la vérité, elle est là.
Ça joue aussi.
Bah, ils se sont rattrapés en finale. Donc, au final, ça va.
Ah, le storytelling, hein. Adam Silver, c'est ce qu'il fait.
il est bien, this is for you.
les bonnes séries, hein. Mais là, il avait besoin d'un plot twist.
Ah bah là.
Mais ça, si OKC gagne ça, ça influe tellement le legacy de Kevin Durant, pas que lui.
Évidemment.
Mais évidemment, mais bien c'est, sûr.
Et on parlerait pas de lui comme un piètre leader, comme un mec qui se défile, finalement, qui se défile dans des gros moments, comme un mercenaire, tu vois. On parlerait pas de lui comme ça, on parlerait comme, bah oui, Kevin Durant. Ça reste un des trois meilleurs à son poste dans l'histoire. Mais on en parlerait avec plus de... Comment dire? Il discuterait plus avec ça au-dessus.
Bah, en fait, je vais peut-être un peu refaire l'histoire, entre guillemets. Ça reste toujours de l'ordre de la fiction. Après, je te laisserai peut-être un peu dire un peu ce que tu penses aussi, parce que t'es un peu silencieux, Polo. On t'entend pas trop, là.
Oui, je vous laisse parler, je vous écoute religieusement.
Mais c'est vrai que tu as Oklahoma qui gagne le titre en 2016. Mais moi, je vous le dis d'avance, rien qu'avec ce titre-là, enfin, je pense, avec peut-être la continuité qu'il y aurait eu derrière, Kevin Durant, il est top 10 all-time, mais la question, elle se pose même pas.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais le problème...
Non.
Le problème, c'est que Kevin Durant, et on en a discuté pendant des heures, Et c'est souvent Damas qui s'arrache les cheveux parce que, enfin, on a l'impression que Kevin Durant, c'est deux personnes. Il y a une personne sur le terrain qui est vraiment exceptionnelle, qui maîtrise son art, et une autre personne qui ne gère pas bien cette personne qui est très forte sur le terrain. C'est-à-dire que nous, en étant spectateurs, on regarde ce qu'il fait sur le terrain, on se dit, mais si nous-mêmes, on avait un quart de son pouvoir, on ferait des choses, on ferait des trucs, on serait même pas en train de parler, on serait déjà très loin. Et c'est je pense que cette différence-là qui, lui, peut-être le dépasse, c'est avoir tout ce potentiel et être qu'à la place qu'il est maintenant. Et c'est vraiment frustrant pour, je pense que pour tous les basketteurs, pour tous les gens qui aiment ce sport, de se dire qu'on a un gars qui a un talent, mais qui ne s'en rend même pas compte. Qui ne se rend même pas compte que s'il avait persévéré, s'il avait un petit peu de leadership, un petit peu de résilience, ça aurait pu être quelqu'un d'extraordinaire. Non, il s'est juste contenté d'observer ce qu'il fait sur le terrain, de se dire, bon, ça va. Tu vois, et c'est ça qui est dommage. Et je pense qu'on pourra en parler pendant des années. C'est cette différence qu'il y a entre lui, LeBron, Stephen Curry. C'est que c'est Stephen Curry et LeBron, ils ont conscience de leur puissance et ils savent comment l'utiliser. Ils savent qu'à tel moment, si j'ai décidé d'accélérer, c'est moi qui deviens le patron. Qu'on aime, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ces personnes-là, quand ils ont dit, bon, maintenant, c'est moi qui prends les choses en main, le jeu tourne, c'est moi qui prends les cartes.
Et c'est ça
que des fois, Kevin Durant n'a pas fait quand il avait la possibilité de le faire. Quand on lui a dit, prends les cartes, il a dit, non, j'ai un brelan, c'est bon, je peux gagner la manche.
Bah,
non,
il l'a. Alors, je peux me permettre peut-être de te corriger et en même temps de faire l'extension de ce que tu dis. Pour moi, si, il a été capable de prendre en main les situations, mais c'est que lorsqu'il a été dans des situations confortables avec les Warriors.
Oui, voilà.
Ou avec Team USA.
Avec Team USA, tout à fait.
Oui.
Ah, parce que 2000, oh,
un leader, c'est
2010,
quoi. Un leader, c'est dans les deux sens.
Non, puis dois-je vous rappeler que on serait champion olympique sans Kevin Durant?
Oui.
Aussi.
Hein, parce ouais. que franchement, je suis désolé, hein, mais Team USA, en finale, on les fume. Hein. C'est juste l'autre malade en face là qui rentre des trucs de l'espace. Ouais. Là. Mais sinon, non, mais voilà. C'est peut-être ça aussi un petit peu l'héritage de Kevin Durant. C'est vrai que ses campagnes avec Team USA, il a toujours été très très fort. Mais oui, je suis d'accord là-dessus à dire que quand même, KD, c'est quelqu'un qui a toujours performé dans les... Il a jamais été bon dans l'adversité. C'est ça qui le dessert. Et c'est ça qui l'empêche d'être un très grand. Il se restera juste un excellent joueur. Il pourra jamais être un très grand parce que les très grands, ils se révèlent dans l'adversité. Et des joueurs même moins forts. Je pense que j'aime pas ce mot, hein, mais intrinsèquement, vraiment, je déteste ce mot. Mais c'est pas grave. Mais intrinsèquement, je pense que comme Stephen Curry est peut-être moins fort que Kevin Durant, hein, c'est pas un blasphème de dire ça. C'est un mec qui, même si des fois a de choc sévère, hein, on pense à sa passe dans le dos Game 7 en 2016, on pense aussi à la série 2016 contre Thunder où il est pas à son meilleur.
Ouais.
Mais c'est un mec qui a su se remettre en question et c'est un mec qui a su performer aussi dans les moments très chauds et quand ça comptait, CF Boston en 2022 ouais. où il fait la série. Non, c'est clair et c'est ça qui manque au CV de KD et c'est dommage parce que ça il l'avait en début de carrière. Quand tu penses à 2012, cette équipe, peut-être que OKC va le refaire cette année d'ailleurs, mais cette équipe incroyablement jeune qui tape les Spurs, qui tape plein d'équipes ultra expérimentées et qui les tape sales, tu vois, qui leur rentrent dedans, qui tape, si je dis pas de bêtises, c'est eux qui éliminent aussi les Dallas qui est champion de titre. Donc franchement, tu vois, genre ils font du sale quoi. Et donc là, pour le coup, il avait cet instinct de tueur, là, le Slim Reaper, tu vois. Et là, pour le coup, voilà, c'est ça qui l'embête, c'est ça qui est embêtant chez KD quoi.
Ouais, non, c'est vrai que Il nous laissera beaucoup de frustration, je pense, à ça. Ça reste quand même un énorme what if et grosse source de frustration. Et je pense que même nous, dans l'équipe de Forever, on le fait suffisamment savoir à notre Mapenda national aussi, au passage.
Après, ça fait partie de l'histoire du mec, tu vois.
Oui, c'est ça.
En soi, où il y a une histoire différente, tu vois, genre, ça fait partie du lore.
Bah, il en faut. Après, ouais. Un mec, alors pareil, bon, attention, je ne cherche pas à comparer ce qui est incomparable, mais un qui est dans cette lignée-là, c'est un Carmelo Anthony. Il est dans cette lignée-là, il est hyper frustrant parce que c'est un mec qui a du talent. Attention, je ne dis pas qu'il est au niveau de Kevin Durant. Hein. Voilà, on va éviter les confusions de ce type-là.
C'est l'inverse, non. C'est Kevin Durant qui n'est pas au niveau de...
ça dépend de quoi on parle.
Mais pareil, Carmelo Anthony, c'est un mec, mais il a du talent dans les doigts. Enfin, le mec, c'est l'un des joueurs les plus élégants à regarder, qui a du talent à en revendre. Mais pareil, ça a été aussi des choix de carrière qui ont été, alors, on va dire personnellement, qui ne sont pas forcément pas plus discutables que ça, mais sportivement, qui sont plus ou moins catastrophiques. Et on repense à l'épisode, c'est surtout New York, hein, l'épisode, on va dire, le plus marquant. Bah, pareil, enfin, il y a c'est en termes de leadership, pour un mec qui, lui aussi, sur sa jeune carrière, a été capable justement de prendre beaucoup de charges sur ses épaules. Hein.
Enfin, la série de Kobe, là.
Ouais, la série de 2009, là. Oh là 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 là. Mais c'est, voilà, pareil, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de mater les séries Nuggets, Lakers, je crois que c'est deux années d'affilée, je crois que c'est 2008 et 2009, ça fait demi-finale et finale de conf. Mmh. Ce sont des duels à voir, donc n'hésitez pas, sur YouTube, il y a. Hein. Donc, tu disais?
Non, c'est classique de chez classique.
Hein. Ah oui.
Franchement, Melo Kobe, c'est incroyable à voir.
Et tu vois, c'est exactement, je trouve.
Je te corrige, 2008, c'est premier tour.
C'est premier tour, ouais, pardon.
Ouais, merci. Et c'est 4-0 sec.
Merci. Ouais, mais c'est celle de finale de conf qui est vraiment incroyable. Hein.
Ouais. Bon, merci pour la correction, Quentin. Voilà, enfin, moi, je trouve que c'est plus ou moins des trajectoires de carrière qui sont...
Je vois ce que tu veux dire.
Voilà, un peu comparable parce que, pareil, il était dans le dur avec Denver. Bon, il avait décidé de prolonger en 2010 et de refuser d'aller à Miami rejoindre le Big Three, hein, parce qu'initialement, c'était pas Chris Bosh, hein, c'était Carmelo Anthony qui était censé aller au Heat. Au final, il a décidé d'assurer le...
Heureusement pour eux, ça n'a pas été lui.
Surtout quand tu vois l'importance qu'a pris Chris Bosh ensuite dans l'équipe. Là,
ne serait-ce que défensivement.
Non, bien sûr.
En plus, à la base, le plan, c'était pas Miami, hein, c'était aux Bulls.
Ouais, il y avait un plan sur les Bulls, ouais.
Ouais.
Ouais, donc... C'est voilà, et donc il avait décidé d'assurer le bag en plus, peut-être d'une certaine loyauté, on va dire, pour Denver aussi. Bon, ça après, ça reste à voir, peu importe. Le fait est qu'il est resté à Denver, et puis après, il a décidé plus ou moins la solution, on va dire, de facilité en allant rejoindre, en tout cas en demandant le transfert pour le coup vers New York. Et après, bon, on connaît la suite des événements le concernant. Donc voilà, bon, j'ai un petit peu digressé sur Carmelo Anthony, mais bon, voilà, je trouvais que ça méritait un peu on va dire la comparaison en termes de trajectoire de carrière. Toi, Polo, sur Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard.
Alors, Stephen Curry, on en a parlé, toi et moi, on en a parlé tellement avec cette saison et puis les playoffs. On sait que c'est lui le patron, mais malheureusement, le patron, pour que le patron reste le patron, il faut que tout le monde soit autour de lui, soit très fort. Et je pense que ces dernières années, entre Klay Thompson, qu'on adore, toi et moi, et d'autres protagonistes, la pente a été glissante. Donc, je pense que tout patron qu'il est, pour qu'il soit fort, il faut qu'autour de lui, ça soit fort. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Mais malheureusement, quand tu portes des charges plus lourdes que tu ne peux porter, à un moment, ça se retourne contre toi. Donc, je pense que là, cette saison, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il ne peut pas être le sauveur. Ça a été, je pense, très dur pour lui. Mais après, on verra comment...
Est-ce que tu l'as entendu se plaindre? Hein, est-ce que c'est ça?
Non, justement, c'est ce que j'allais dire.
Par rapport à ce qu'on disait sur Embiid au début de l'épisode.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. La différence d'être un patron, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas. C'est-à-dire que il reste dans son coin et essaie de trouver des solutions. Il n'est pas en train de pointer quelqu'un du doigt pour dire « Ah, c'est ta faute, oh, c'est lui, oh, c'est lui. » Un peu comme ce que a fait LeBron dans les playoffs en disant que c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute. Non, mon gars, t'es un patron, trouve des solutions avant que les problèmes arrivent. Réfléchis, anticipe. Et là, voilà, moi je trouve que Stephen Curry, il est vraiment, il reste fidèle à lui-même, même si là, ça s'écroule un peu autour de lui. Mais ça reste pour moi un patron.
Bizarrement, Bob Myers, il s'est barré, tout va mal là.
Ouais, non, mais Bob Myers, il s'est barré, il savait bien ce qu'il faisait. Hein,
bien garçon, sûr.
C'est, enfin, franchement, il.
Et le move. Ah, le pif.
Non, mais tout le monde s'en doutait, hein, en même temps, que 2022, c'était le champ du cygne. Ouais. Mais bon. Après, moi, je pense quand même que ces joueurs-là, tout l'enjeu va être de soigner leur sortie. Ils savent qu'ils en ont plus pour longtemps. Tu vois, par exemple, là, t'as cité Klay Thompson. Klay Thompson, ça va être la question qui va se poser pour lui cet été, de savoir est-ce que je vais faire la saison de trop, est-ce que je vais essayer de me relancer, de partir au moins la tête haute. Je te parle pas d'un Klay Thompson All-Star ou quoi que ce soit. On est tous bien conscients que ça n'arrivera plus. Ou est-ce qu'il va juste décider, bah voilà. J'ai fait mon temps, je veux pas finir dans un état encore plus pitoyable que je suis là, et bah c'est machin. Ou alors est-ce qu'il va faire le rim chasseur, enfin c'est une question, tu vois, comment tu soignes ta sortie. Moi je trouve que c'est très important, et c'est les images qui restent, tu vois. Par exemple T-Mac, le miskin, tu vois, genre on parle de lui sur le banc des Spurs à jouer le garbage time en 2013, tu vois, c'est en finale. Non, c'est pas des images que tu veux voir sur des joueurs comme ça. Je pense que c'est important, tu sais, dans la legacy, dans l'image que tu laisses. Tu vois, je m'inquiète pas pour quelqu'un comme Stephen Curry. Je sais que lui, voilà, il sera toujours incroyable. Là, LeBron, il doit se poser encore cette question cet été. Là, il a opt-out tout à l'heure.
Oui.
Moi, je pense qu'il va rester à LA et qu'il aurait intérêt de rester à LA. D'un point de vue business aussi. Mais voilà, c'est des questions que doivent se poser ces mecs-là. Là, genre, Durant, qu'est-ce qu'il va faire? T'as quand même l'impression que les Suns, ça va exploser cet été. Surtout que Bill, tu peux pas le bouger parce qu'il a une autre aide exception.
Ah, ouais.
Voilà, c'est fin. Et puis KD, s'il repart, qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça que la piste OKC est intéressante, parce que pour le coup, ça ferait un peu, j'essaie de redorer mon image. Mais du coup, voilà, c'est les narratifs à soigner pour tous ces mecs et tous ces mecs-là qui sont sur la fin, quoi.
Mais,
si ouais, je peux me permettre une prédiction pour Klay Thompson. Bon. Alors, je vous fais le scénario vite fait. Là, cet été, il part au Magic. Le Magic, il veut lui filer un beau billet. Il va prendre 80 millions sur 3 ans.
Mais ils vont jamais lui filer ça.
Oh, on imagine. Il prend 80 millions sur 3 ans. Il se rend vite compte qu'il pue la merde. Sauf que
80 millions... Pour 80 millions sur 3 ans, pour se rendre compte qu'il pue la merde, les gars, il suffisait de s'acheter un abonnement League Pass. Hein.
Ouais, mais il y a le nom, tu vois. Et le mec, c'est un bon négociateur, tu vois. Il est arrivé, il a montré les 4 bacs comme ça. Il a négocié une neutre clause. Du coup, il est là, il pue la merde. Du coup, le seul truc qu'il réussit à faire, le Magic, c'est « Bon, bah, Clay, on te cut. » Et voilà, il part en retraite avec ses 80 millions dans les poches. Il part de Walt Disney. De Disney World, pardon, il part comme ça, avec ses 4 bacs comme ça. Et voilà, on se retrouve peut-être pour le Hall of Fame dans 4 ans.
Oh merde.
Il va à Taïwan. Dans l'équipe de Cousins, là.
Non, mais.
Ou avec Dwight Howard pour faire
avec des Dwight Howard.
Non, Dwight Howard, il a interchangé avec Cousins. Il est parti à Porto Rico dans l'équipe où était. Dans l'équipe où était Cousins, et Cousins est venu dans l'équipe où était Howard.
Oui, c'est vrai. mais enfin, moi je trouve, après voilà, on va peut-être clore après le débat, mais Klay Thompson, pour moi, il a qu'une seule manière de vraiment avoir une sortie dorée pour le coup, qui reste aux Warriors. Il y a absolument
minimum vet,
aucun problème. Mais alors minimum
mid level,
mid level, voilà, moi j'étais sur une mid level. Tu sors une mid level, très bien, respect. Là, t'as fait ce qu'il fallait, tu penses au bien de ton équipe. Et au moins, tu veux rester jusqu'au bout avec eux. Ok, très bien. J'ai aucun problème avec ça. Tu peux tourner à 2 points par match, je m'en fous. T'auras fait le move qui va assurer que tu vas sortir par la grande porte.
Et comme non, ça, les Warriors, ils peuvent encore donner un contrat de merde à un autre jeune, comme ils ont fait avec Jordan Poole.
Non, puis tu vois, genre, même s'il est là pour tourner les serviettes, tu sais que Clay, pour pas beaucoup d'argent comme ça, tu peux, sur des moments clés dans la saison, sans faire de jeu de mots, c'est un mec qui peut être chaud, tu vois. Oui, genre, moi, je reste persuadé que sur un match, c'est un mec qui peut te faire gagner un match.
Et il peut casse-pire, bien sûr.
Bien sûr. Mais c'est juste que voilà, il peut te faire gagner une saison, quoi. Mais ouais, c'est important. Même, tu vois, genre, on n'a pas parlé, mais Chris Paul aussi, là, waouh, il est en train de bien flinguer ça. Ça, en même temps, c'est lui qui l'a cherché.
Ça fait un moment que c'est un peu flingué quand même pour Chris Paul. Hein.
Ouais, mais lui, c'est lui qui l'a cherché. Hein. C'est lui qui a changé les règles pour avoir le gros contrat.
Tu sais qu'on a fait un truc sur. On a fait l'émission il y a très longtemps sur Tim Duncan par rapport à ça. Et c'est ça, en fait, au départ, c'était une personne qu'on adorait vraiment. Il apportait de la fraîcheur et tout, mais au fil des années, pareil, cette gestion de carrière, cette gestion de tout ça mélangé, plus son caractère à lui,
Tu vois, pareil, hein, le cas Chris Paul, pour être très bref avec lui, imagine juste, pareil, on est toujours dans l'ordre de la fiction, imagine Lob City, ils ont un titre.
Ouais, j'imagine pas les Clippers avec un titre.
J'ai du mal à les voir en finale. Alors, un titre.
Non, mais imagine. Voilà, moi, je dis, on est purement sur la fiction.
Attends, imagine Lob City fait une finale de conf. Allô.
Oh, merde.
Ouais, imagine
Philly fait une finale de conf. Oups, pardon. Non, mais c'est. Enfin, pareil, Chris Paul. Non, bah, ou même avec les Rockets.
Imagine, il voit les Lakers, c'est tout ça aussi.
Oh, là ouais, 2010, ouais, putain. Imagine le front office de New Orleans ne met pas son veto. C'est surtout
c'est pas le front office qui met le veto, c'est le front office qui fait le merde, c'est comment
qui
il s'appelle, c'est lui qui fait le trade, et c'est Stern qui met le veto.
Oui,
derrière.
C'est Stern qui met le veto, oui, pardon,
parce qu'il est président par contumace. Contumace, voilà. Ça se dit pas, non, j'ai pas utilisé les bons mots. Il est régent de la franchise.
Régent de la franchise, putain. Oh, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais bon, ça, pour le coup, c'est d'autres politiques. Hein. C'est parce que Dan Gilbert et Robert Sarver n'étaient pas contents parce qu'ils trouvaient que les gros marchés et les joueurs avaient gagné trop de pouvoir dans les renégociations du CBA. Et du coup, il a râlé. Et puis, pour mettre tout le monde content, Stern, il a dit non. Et puis finalement, il l'a envoyé aux Clippers, autre petit marché.
Ouais. Bon, bref. Voilà pour... Voilà, pour le cas Chris Paul, c'était une petite aparté. Je vous propose, messieurs, parce que oula, on a déjà bien avancé dans le temps. Pour clore justement ce débat de la semaine, hein, donc bon, en tout cas, on est bien tous d'accord qu'il y a une page, voire une énorme page, qui se tourne sur le paysage NBA. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant qu'on close cet épisode?
LeBron James, c'est le GOAT.
Je pense que le but de toutes ces personnes-là, c'est de finir en beauté. Mm. On espère que toutes ces personnes-là feront un beau farewell et qu'ils iront tranquillement siroter des margaritas ou d'autres cocktails tranquillement en ayant de bons souvenirs. Parce que là, pour le coup, ça serait dommage de finir en dérapage comme dans Mario Kart.
Avec la peau de banane, bien évidemment.
Voilà. De toute façon, à partir du moment où on ne revoit plus Chris Paul, à partir du moment où il prend sa retraite, ça me va très bien.
Non, en tout cas, bon, pour clore, ouais, donc, bah, on a une belle page qui s'est tournée, et en espérant qu'on en ait une très belle qui commence dès à présent, en tout cas depuis quelques années. Eh bien, écoutez, messieurs, après un bon gros débat sur des gros gros joueurs, hein, qui a été très bien introduit, hein, notamment par Loris. C'est ainsi que se termine ce 10e épisode, hein, de la 3e saison de Forever. Hein, donc, bien sûr, hein, si cet épisode, j'en perds mes mots, vous a plu, hein, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, hein, histoire de donner les petits coups de pouce qui fait plaisir pour le référencement, tout ça, ça fait, voilà, ça fait bien plaisir. Une nouvelle fois, hein, retrouvez également Forever, hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur TikTok, hein, compte Forever Podcast, ainsi qu'Instagram, le compte Forever le Podcast, où vous trouvez donc du contenu quotidiennement. Par ailleurs, vous retrouverez également en description de ce podcast tous les liens qui vous ramènent à la fois vers Vincent ainsi que le crossover, hein, que ce soit Twitch, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit...
Il y a trop de trucs, hein.
Tout ce que vous voulez. même LinkedIn, allez.
N'oublie pas de mettre mon...
Manger dans ton affaire, là.
N'oublie pas de mettre mon OnlyFans.
Non, ça, c'est dans la description. Ça reste entre nous.
Ils vont ces dessins de Manu Ginobili.
ils vont des photos des pieds de Manu Ginobili.
J'allais te le dire.
Et ben, en tout cas, Vincent, merci une nouvelle fois. C'est un réel plaisir à chaque fois de te recevoir... pour parler basket, hein, c'est toujours avec passion et toujours un plaisir aussi de se croiser quand on se voit en vrai.
Merci Vlad, ça fait trop plaisir. Hein, vous savez, toujours présent pour la team Duncast, hein, les copains. ça fait des années maintenant, hein, et puis vous me réinviterez une autre fois.
Bah écoute, volontiers, avec très grand plaisir. Merci Polo, merci Quentin.
Rien.
Un petit dernier mot de la fin avant de rendre l'antenne.
J'ai pas parlé de Jabari Smith.
Hey, tu as oublié, la vie est une fête. Tu as oublié,
attends,
la vie est une fête.
J'ai pas fini. Vas-y. Donc, Jabari Smith, tu veux dire quelque chose peut-être?
C'est toujours un joueur de merde.
Voilà, ok. Bien. Polo?
Oh non, moi, Boston. Hein. Boston toujours, on espère qu'on va aller le plus loin possible. Hein. Tu me connais. Hein.
Ouais. Vincent?
Ginobili.
Voilà, Ginobili. Et moi, je vous dis à mercredi prochain. Et n'oubliez surtout pas, la vie est une fête. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.